bain de soleil à l'hôtel de la plage sur Very Good Cap Ferré. Le direct de l'été en plein village de l'Herbe, au bord de l'eau. De 8h du matin à minuit, on partage tous l'esprit cabane authentique et chic de l'hôtel de la plage. Buvez un verre, mangez des produits frais, séjournez à l'hôtel de la plage et voilà, vous faites partie de la famille.
Et voilà, vous faites partie de la famille. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le village de Claouet qui nous accueille, puisque vont démarrer très très bientôt maintenant les fêtes de la Presqu'île, les merveilleuses fêtes de la Presqu'île. Et donc, pour cette occasion, quoi de mieux que d'inviter le maire de Lège-Cap-Ferret, qui va donc présider également ces fêtes-là, et qui est avec nous. Bonjour Philippe de Gonneville.
Bonjour.
Toujours cette belle voix qui m'agace un petit peu. Je vous présente Déborah, qui est une recrue tropézienne, figurez-vous.
Bonjour à tous.
Et qui va nous tenir compagnie et puis qui va également se jeter à l'eau avec des rubriques dont elle n'a pour certaines pas connaissance. Il va falloir qu'elle y aille directement.
Non mais tout va à volo parce que sur le principe des humoristes belges qui envahissent la France, là je trouve qu'on a beaucoup de tropéziennes.
Et on a beaucoup d'avance.
Beaucoup de tartes.
Et puis on l'a entendu évidemment, l'ineffable Brutal est avec nous, que monsieur le maire connaît très bien d'ailleurs car il lui a refait entièrement le chicot.
C'est ça. Bah oui, écoute, qu'est-ce que tu veux, il faut. Hein. C'est de ma faute en même temps.
Hein. Ça tombe bien, j'avais l'impression d'avoir une carie cette semaine.
Exactement, Carrie au bal du diable d'ailleurs, ce sera peut-être ce soir. Et donc, elle nous accompagne également, mais elle n'a pas de micro et de casque, on la salue, la charmante Aurélie Delabre que nous adorons et qui est une sorte d'ombre bienveillante qui suit systématiquement Philippe de Gonneville. Voilà un petit peu pour le casting du jour. Après, la camionnette est ouverte, elle a vue sur Bertic, donc on est quand même un petit peu au paradise. Et si jamais des passants, comme leur nom l'indique, passent, ils pourront très très bien intervenir s'ils le souhaitent. Au sommaire, très rapidement, on aura un gros agenda et interactif. Donc, monsieur le maire, vous serez sollicité souvent pour donner un petit peu votre commentaire sur les événements à venir. Ensuite de cela, Brutal nous donnera un court coup de cœur de presse. Et puis l'interview commencera cette fois-ci plus sérieusement. Vers midi, nous appellerons la dépêche du bassin, nos amis et partenaires qui auront peut-être une question ou deux pour vous aussi. Déborah se lancera dans une météo surprise qu'elle n'a pas lue. On lui donnera au dernier moment.
J'ai peur.
Tu as de quoi. Et puis derrière, on refera également une petite diffusion des podcasts de l'Office du Tourisme. Et aujourd'hui, nous irons dans les clubs de plage pendant quelques minutes parce que l'Office du Tourisme de Lège-Cap-Ferret produit des podcasts de très grande qualité et qui vous incite à passer ce que l'on appelle des vraies vacances, c'est-à-dire à faire peut-être autre chose que de la bronzette, même si c'est très très agréable, évidemment. Et puis ensuite, à nouveau de l'interview et patati, peut-être même patata si nous avons le temps. Et donc, quoi qu'il en soit, il est temps de proposer à notre ami de faire sa présentation. Qui donc es-tu ?
Oui, bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Déborah. Je suis extrêmement honorée d'être à vos côtés aujourd'hui.
Ça ne va pas durer.
Et oui, voilà, Débo passe à la radio pour la première fois, sachez-le. Je vous préviens tout de suite, je parle très vite quand je suis stressée. Et là, je suis très très stressée. Donc accrochez-vous, ça risque d'aller à 200 km/h. Aujourd'hui, je fais mes tout premiers pas sur les ondes du Cap Ferré. C'est un peu comme un baptême, sauf qu'il n'y a pas d'eau, pas de prêtre, mais beaucoup de pression, sonore bien sûr. Alors, qui suis-je? Eh bien écoutez, c'est aussi mes premiers pas au Cap Ferré. Eh oui, je suis née en Lorraine et je suis une tropézienne d'adoption. Alors oui, certains diront que je suis une quiche devenue tarte, aucun souci.
C'est beau.
Si je suis ici, c'est pour vous parler de mes toutes premières vacances au Cap Ferré. Très honnêtement, je ne sais pas trop où je suis. Quand je regarde la mer le matin, je vois de l'eau. Quand je la regarde l'après-midi, je vois de la terre. C'est à se demander si moi-même, je bois vraiment que de l'eau. Comme je ne sais pas où je suis, j'ai regardé sur Wikipédia. Déjà, ça commence mal. Je vois qu'il est écrit « Lège Cap Ferré ». Très honnêtement, après 5 jours de vacances ici, ce n'est pas vraiment à cet endroit que je me suis allégée. Entre les huîtres et les crevettes, bonjour les silhouettes. Ensuite, on m'indique que pour ma première intervention radio, monsieur le maire est parmi nous. Mon stress monte d'un cran. Attention, je passe à 300 km/h. Je poursuis donc la lecture de Wikipédia et j'apprends que monsieur le maire prend en charge un vaste territoire avec plusieurs villages. Le petit piquet, le grand piquet. Je me suis dit, mince, encore un discours sur le Covid. Le village des canons. Je ne savais pas que j'avais un territoire à mon effigie. Le village de la vigne. Le village de la vigne. Au moins, ceux qui y habitent, on peut leur lâcher la grappe et on est sûr qu'ils n'auront pas de pépins. Quant au village de l'Herbe, je ne savais pas que la fumette était autorisée par ici. Tu me diras, avec tous les pins qu'il y a autour, il y a peut-être de quoi voir quelques éléphants roses. Bon, personnellement, je pense que sur ma destination de vacances, je ne me suis pas trop trompée, car à défaut de Saint-Tropez et des gros nénés, j'ai troqué mes talons de 12 par des méduses en plastoc pour braver les marées et mes robes en paillettes pour des sweatshirts en éponge. Manque plus qu'à trouver Bob. En revanche, rien ne vaut mon clocher de Saint-Tropez, car j'ai remarqué que la cloche de l'église du Cap Ferré est électronique. Ça, pour le coup, fallait l'inventer. Non, mais je me demande à quoi devait ressembler le conseil municipal qui a délibéré de ce changement. Je me dis qu'eux aussi avaient dû fumer 2-3 pains avant de délibérer. Non, mais tu vois le genre. Hé, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? On supprimerait pas le poste de Quasimodo et on vient le remplacer par une clochette électronique? Non, mais je t'assure, puis que Ghislaine et moi avons remplacé notre Mégane par une 3008 électronique, c'est l'extase, vous verrez. Le pire, c'est que la majorité l'a emporté. Manque plus que le curé devienne électronique, lui aussi. Mais dans tout ça, et sans mauvais jeu de mots, je peux à présent vous l'avouer et me confier à mon tour. Je suis désormais bien piquée par le Cap Ferret.
Bravo, félicitations Déborah.
Bravo.
Une ovation bien méritée. La foule s'est massée.
Mais alors, j'ai quelques doutes quand elle dit que c'est la première radio. À mon avis, elle n'est pas sa première expérience de radio. Non,
non, mais je crois que l'éloquence vient de son premier métier.
Ah oui,
bah, les avocats, on les surveille quand même un peu les baveux. Hein.
Alors oui, parce qu'elle maîtrise totalement leur oratoire, visiblement.
Voilà. Il ne manque plus que le Y, c'est
le piquet. Ah, ouais, excusez-moi. Ouais. Oui.
Et Klaouaï.
Merci pour votre compliment, monsieur le maire, mais je vous assure que c'est ma première radio.
Alors je ne sais pas d'ailleurs, Philippe de Gonneville, on dit piquet, mais je ne suis pas sûr qu'on dise Klaouaï.
On dit Klaouaï aussi.
Mais
aussi
si, mais, ah, si, oui, okay. Mais si, j'y ai habité.
Alors... Les vrais de vrais habitent. Habite Klaouaï.
Eh oui. Parfait, excusez-moi, je suis du Ferret. Bon, alors donc, quoi qu'il en soit, Ferret. C'était très très bien. Félicitations,
Merci
Déborah.
Merci beaucoup.
Et alors, comme maintenant on y a pris goût, eh ben, on va t'obliger à continuer parce qu'on va désormais se plonger dans un agenda. Et avec cet agenda, on va pouvoir, avec monsieur le maire, justement détailler un petit peu d'abord pour commencer ce que vont être ces fêtes de la presqu'île. Et donc, pour cela, bah, je t'ai préparé un document qui va te permettre de t'y retrouver parce que vous l'avez compris, Philippe de Gonneville, Déborah est entièrement de bonne volonté et à moitié surprise par tout ce qu'on lui propose.
Mais quoi de neuf dans l'agenda ?
Je vous en prie.
Dans l'agenda, nous vous proposons place Bertic à Klaouaï. Je te répète, Klaouaï apparemment.
Pas mal, oui. Pas mal. Si, mais tu vas voir, ça va venir.
Donc, je vous propose, la mairie vous propose du jeudi 31 juillet au dimanche 3 août, de 16h à 1h du matin, la fête foraine. Vendredi, samedi
Alors,
et dimanche.
C'est le moment de s'arrêter parce qu'on va tout commenter.
Ah.
Donc chez nous, je pense que depuis de longues années, même sur les mandatures précédentes d'ailleurs, il y avait une bonne harmonie finalement avec les gens du voyage qui n'a pas l'air d'être le gars à Gujan et compagnie. Il y a parfois effectivement des petits frottements, mais chez nous ça se passe bien.
Alors chez nous ça se passe bien et ça s'est toujours bien passé. Mmh. À l'époque ça s'appelait la fête de la gigasse.
Oui.
Et c'était l'huître qui a remplacé les huîtres qui étaient tombées malades. Et
alors la gigasse est japonaise.
Japonais,
d'accord.
Absolument. Les yeux brisés,
c'est ça.
Les huîtres à yeux brisés.
La coquille bridée. Ouais.
Et il y a toujours eu une bonne ambiance entre les forains, les habitants permanents et puis celles et ceux qui nous rejoignent.
Exactement.
L'été pour passer quelques jours.
Voilà. Donc,
il ne faut pas la manger à la baguette.
Bonne ambiance garantie.
D'accord.
On peut essayer.
Si elle est cuite, pourquoi pas, d'ailleurs.
Mais il devait mourir de rire dans le prétoire tes clients.
C'est pour ça
que j'ai arrêté.
Elle a arrêté après, elle est partie dans l'immobilier. Je vous en prie, chère Déborah.
Ensuite, nous avons vendredi et samedi, ainsi que dimanche, à partir de 19h, une animation musicale assurée par une banda. Une restauration sera sur place.
Alors, monsieur le maire, elle a demandé tout à l'heure, Déborah, ce que c'était qu'une banda.
Alors, une banda, c'est un groupe de musiciens.
Ouais.
Et je vais faire une petite confidence. Je fais partie de la banda de Lège.
Ah, mais non. Formidable.
Si.
Mais quels instruments jouez-vous ?
Cymbale. Mais c'est le seul instrument que je sache jouer.
Cymbale ou cymbale ?
C'est cymbale, mais pas cymbale.
Ah, ouais. D'accord.
Et il serait temps de repasser au présent et au futur. Parce que banda, ça fait un petit peu de nostalgie.
Oui, mais justement, on aime la nostalgie du passé qui était intéressant et qui était constructif à l'époque. En fait, c'est une musique qui est très populaire,
d'accord,
qui est inspirée du sud-ouest, voire même du Pays Basque, et qui permet de dynamiser une ambiance de façon spectaculaire. Mais je vous invite ce soir à venir, il y aura un dîner,
d'accord,
avec des huîtres, avec plein de trucs,
avec
et il y aura une banda. Et vous verrez, on s'éclate, on monte sur les tables, on danse. Et c'est vraiment la belle ambiance.
Parfait.
Comme à
Saint-Tropez,
on monte
sur les tables.
Tu vas là-bas pour un papier, ils dansent sur les tables.
En fait, pour les quelques Parisiens qui nous écoutent et les Américains, parce qu'il y en a, c'est une fanfare.
Ouais,
c'est local.
C'est ça.
Très bien.
Je vous en prie.
Fanfaron. Le vendredi 1er août à 22h, nous avons le show du groupe Elixir.
Ouais.
Donc des musiciens et danseurs enflamment la scène pour un spectacle haut en couleurs, mêlant costumes, chorégraphies et magie visuelle pour émerveiller petits et grands.
Parfait ça. Elixir, vous allez y aller tous les jours, monsieur le maire ?
Oui, ouais. Oui, oui, je viendrai tous les jours à la fête. Et puis le dernier jour, mais je pense que Déborah va nous le dire.
Exactement.
Je ne dévoile rien.
Non, non, mais vous nous commenterez tout ça.
Alors attendez, je ne suis pas encore au dernier jour, puisque vous avez concocté un grand programme. Le samedi 2 août à 22h30, le concert du groupe Notorious. Donc là, des musiciens professionnels revisitent les plus grands tubes internationaux pour un moment enflammé et fédérateur.
Alors, ça fait deux fois qu'on parle de flamme, il va falloir faire attention.
Ah, ouais. Ça brûle.
Oh, c'est pas aujourd'hui que ça va prendre. Hein.
Non. Mais quand même. Non, on est assez serein de ce côté-là. Hein. Ouais. Je vous rassure, on est en vert, avec la pluie qu'on a eue encore cette nuit.
Ça
y a
va.
Pas de problème.
C'est très bien, ça change.
Et puis,
c'est une bonne nouvelle. Vous voulez parler du dernier jour ?
Oui. Ouais.
Bon, j'espère que ce ne sera pas le dernier jour de l'été, mais dimanche 3 août à 21h45, le concert du groupe Granny Smith.
Ah bah oui, ma pomme.
C'est un groupe bordelais composé de 6 artistes avec un show de reprise énergique. À 23h, le feu d'artifice, ah le oui. fameux. À 23h30, pardonnez-moi, un DJ set pour poursuivre cette fameuse soirée endiablée. Donc tout ceci se passe place de Bertic à Claouet, okay. comme on l'a dit, et c'est bien évidemment ouvert à tout public.
Eh ben c'est génial, voilà un très bon résumé. Alors que vouliez-vous rajouter sur cette dernière soirée ?
Ben c'est une journée ou une soirée où nous avons un feu d'artifice, mmh. et j'invite celles et ceux qui sont présents sur la presqu'île à se joindre à l'ensemble des habitants mmh. permanents qui viendront sûrement voir ce feu d'artifice. Mmh. Et comme c'est la 50e édition de la fête de la Gigaz, il y aura quand même une ampleur toute particulière. Ça va être sympa, je pense.
Il y a une soirée très spéciale. Donc 50
ans.
De
la première, je me rappelle de la première.
Il y a 50 ans.
Pas né.
Exactement.
Et il sera tiré depuis une barge en face de la place.
Absolument.
Si vous avez besoin d'une barge, je suis là. Oui, vous l'avez bien compris. Hein.
La barge, la quiche, la truffe, la tarte.
J'aurais 30 ans de moi, je te demanderai en mariage. Parce que ce genre
beaucoup de surnoms, en tout cas.
Calembour.
Les doigts sont libres, hein, j'accepte.
Très bien. Alors, donc, pour conclure avec ces fêtes, donc, on le dit, 50 ans, c'est pas rien. Et puis, bah, y a des thématiques sur les fêtes. Alors là, ce sont les fêtes de la presqu'île, mais plus tard, on aura celle de la mer. On aura...
Alors, c'est vrai qu'on a des thématiques et chaque village a sa fête. Donc voilà. C'est vrai qu'on commence à Lège, après on va au Cap Ferré, on revient à Claouet, on va fêter la mer au canon et puis finalement on termine dans un format un petit peu différent à l'herbe, ouais. Fin août. Voilà.
Là, tout le monde est un petit peu en fin de saison, donc voilà. Ça débride pas mal à l'herbe
c'est,
en général.
C'est sympa à l'herbe. Ouais,
très très sympa. Voilà, bon, bah, après on a d'autres chapitres dans cet agenda, parce que les fêtes c'est bien, on va y aller bien entendu, mais il y a d'autres événements et puis je crois que tu voulais parler aussi de nos amis de Cap Citel.
Oui, les amis de Cap Citel, 20 ans d'expo au Cap Ferré sur une rétrospective à la Forestière où 80 artistes seront réunis. Je crois même savoir que vous les avez récompensés, monsieur le maire.
Absolument, je crois que nos amis de Cap Citel méritaient largement une récompense et nous leur avons décerné la médaille d'honneur de la ville de Lège-Cap Ferré puisque pendant 20 ans, ils ont organisé... la plupart du temps chez eux, ouais. des expos avec toutes sortes d'artistes.
Et des grands. Hein.
Et des grands artistes, que ce soit des musiciens, des peintres, des sculpteurs, que ce soit des photographes, que ce ouais. soit des écrivains. Bref, c'est vrai qu'on ne pouvait que récompenser ces personnes qui bénévolement, pendant 20 années, ont supporté la culture sur la presqu'île de Lège-Cap Ferré.
Oui, les phares,
ça valait
exactement.
Bien
donc, Martine et Robert, évidemment.
Martine et Robert, absolument.
On vous salue. C'est ouvert de 11 à 13 et de 16 à 20. C'est entrée libre. Alors, par contre, c'est une expo vente. Hein.
C'est ça.
C'est-à-dire que si vous voulez acquérir certaines œuvres, vous le pouvez. Voilà.
Voilà, il y a des peintures, des bijoux, des sculptures, des photos, ouais. des livres.
Plein de trucs.
On y trouve de tout.
Exactement. Et puis, alors on a un partenariat depuis peu que l'on a envie d'honorer, bien entendu, qui est avec l'Union des bateliers arcachonnais, la fameuse UBA.
Exactement, et cette Union des bateliers arcachonnais vous propose 9 navettes pendant l'été. Alors, vous avez la première qui relie Arcachon, Cap Ferré, l'aller-retour. Vous avez un départ toutes les heures, à l'heure pile d'Arcachon et à la demi depuis le Cap. Ensuite, vous avez le Moulot, Cap Ferré, l'aller-retour. L'aller-retour, le canon Arcachon. L'aller-retour, Ardénos-Arcachon.
Ardénos. C'est vrai, on voit bien, elle sera guère.
Elle est vraiment de Saint-Tropez.
Andernos. Andernos-les-Bains.
Andernos-les-Bains, Arcachon, l'aller-retour. Vous comprenez mieux pourquoi c'est ma première fois.
Oui.
Le Cap Ferré d'une.
On l'a tous fait.
Oui.
Ensuite, dans le micro, ma chérie.
Dans le micro, voilà, bah oui, vous voyez, je partais déjà prendre mon café.
C'est
très bien. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Vous avez également l'aller-retour du Cap Ferré, Bond d'Arguin.
Ouais.
L'aller-retour d'une du Pilat, Bond d'Arguin.
C'est pas mal le Bond d'Arguin.
Bond d'Arguin. Vous voyez, je vous invite d'autres villages, monsieur le maire. Vous allez quoi faire? Je crois que je l'ai cité, la dune du Pilat,
oui.
Bond d'Arguin. L'aller-retour, le Moulot, Bond d'Arguin.
Oui.
Ainsi que l'aller-retour Andernos Cap Ferré.
Bravo, oui, on peut dire super.
Ah là, j'ai réussi.
Non, mais c'est pas évident parce que moi, si on me demandait de prononcer des noms peut-être de villages,
Saint-Tropez, par exemple,
ouais, voilà. Moi, j'en saurais rien, je saurais pas faire.
Chamonix.
Chamonix.
Avoriaz.
Ou Cours-le-Chelve.
Ou Megève.
Ou Jemève.
Voilà. Courche.
Voilà, c'est très compliqué. En tout cas, je vous remercie de votre compréhension. Vous savez, c'est pire que dire piano-panier.
Là, à ce niveau-là, ce n'est pas la compréhension, c'est de la mansuétude.
Vous avez également des excursions extraordinaires, hein, comme le tour de l'île aux oiseaux,
oui.
La balade tradition, les couleurs du soir, les feux d'artifice, le combo d'une du Pilat et banc d'Arguin, la croisière repas, la pêche et bien d'autres encore.
Formidable. Alors justement, tiens, Philippe de Gonneville, on sait que vous êtes par ailleurs de nombreuses activités, on en reparlera tout à l'heure, amateur du plan d'eau, donc vous êtes un voileux et vos balades vous amènent où en général?
Alors j'ai tous les défauts. J'ai tous les défauts parce que je suis un voileux, je suis un surfeur, je suis un kitesurfer.
Aïe.
Et c'est trois passions qui me dévorent depuis que je suis tout petit.
Oui.
Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moteurs thermiques là-dedans.
Non, il y a.
C'est très bien, c'est très écolo.
C'est très écolo et ce sont des passions pour moi.
Alors qu'un tracteur de 400 chevaux passe à 2 mètres du camion. Oui, et donc, oui, effectivement, continuez, je vous en prie, vous allez vers où? C'est une balade préférée?
Alors, moi, j'aime bien faire le tour de l'île aux oiseaux, d'aller aux cabanes Chanquet, et puis bien évidemment, le bon d'Arguin.
L'excellent d'Arguin.
Le bon vieux d'Arguin.
Le merveilleux d'Arguin.
Je rappelle d'ailleurs qu'à propos d'Arguin, on a un nouveau bateau de la SNSM qui s'appelle Arguin.
Et c'est ça.
Et ça, c'est génial.
Il est très beau. Et d'ailleurs, on peut faire un petit bisou, entre autres, aux assos et puis aussi à notre ami David, qui a participé à trouver
Donc ça, c'est pas le bon d'Arguin, c'est pas le banc d'Arguin, c'est le beau d'Arguin.
C'est ça. Très bien.
Est-ce que vous avez essayé le foil?
Ouais, j'ai essayé le foil, mais alors sans grand succès.
Ah bon?
Sans grand succès pour le moment.
Clément, si tu nous écoutes,
vous n'avez pas réussi à décoller.
Le maire n'a pas réussi.
Si, mais
c'est meilleur que lui, Clément.
C'est compliqué. Alors, je fais un peu de wing maintenant, mais j'ai du mal et c'est vrai que je préfère souvent, quand les conditions sont satisfaisantes, aller m'éclater en kite ou en surf plutôt que de galérer avec le foil. Alors j'ai un kite foil, j'ai un wing, je m'entraîne derrière les bateaux de temps en temps.
C'est ça.
Je vois que mes enfants progressent beaucoup plus vite que moi, ça doit être l'âge.
Alors en fait, c'est monsieur de Gonneville est écossais et donc quand il était petit, il arrive dans sa famille, il est tout fier, il dit « Maman, j'ai économisé 1 euro en courant après la pinasse ». Et donc sa mère lui dit « Crétin, il fallait économiser 10 euros en courant derrière le foil
».
Tu vois, c'était effectivement une vieille blague.
Et je n'en ai pas terminé avec nos fameux bateliers d'Arcachonnais. Je vais y arriver.
Oui, mais tu y arrives.
Vous avez la possibilité de privatiser des bateaux et des activités pour les enfants. Bon, vous avez toutes les horaires ainsi que les informations, la possibilité de réserver sur le site batelier-arcachon.com.
Merci beaucoup. Et c'est important parce que ces bateliers sont quand même un petit peu... on se rappelle les nostalgiques et les historiens du fameux courrier du Cap qui était la seule veine nourricière entre la côte sud et puis ici cette presqu'île à l'époque quasi déserte. Désormais, bien sûr, ce n'est plus le cas, mais les transports sud-nord restent vitaux évidemment pour l'économie et puis pour la vie locale.
Absolument. Alors, c'était au début du XXe siècle où les Bordelais prenaient le train à Bordeaux, Saint-Jean, descendaient à Arcachon, prenaient le relais du Cap pour aller récupérer le petit train qui, à l'époque, était tiré par des chevaux. Ouais. pour voir l'immensité de l'océan Atlantique. C'était une excursion à l'époque. C'était fou, c'était incroyable.
Une aventure.
Absolument. Alors, c'est un peu différent.
J'en profite pour dire, puisqu'on a évoqué le petit train, que le nom de Very Good Radio provient de la première des publicités qui était longitudinalement sur le toit du petit train. Et c'était Very Good Soda. Et ça s'écrivait exactement comme la radio. Et c'était l'ancêtre du Fanta ou du Pchit, tu vois.
D'accord.
Et donc, c'est pour ceux qui
connaissent... Non, mais elle n'a pas connu le Pchit et le...
Non, mais le Fanta, si.
Le Pchit, non.
Je connais le bruit du Pchit quand je me mets une aspirine dans le...
Dans le verre, mais dans le verre,
bah dans le verre.
Taisez-vous, El Kabash.
Il reste peut-être encore à rêver en regardant le ciel.
Exactement, je vous propose de parler de la nuit des étoiles au Lège Cap Ferré le samedi 12
Olège.
Août.
Alors ça va, le maire d'Olège.
Olège. Ouais.
Le samedi 2 août à partir de 22h au lac de Bénédicte, route d'Ignac. C'est organisé par le club astronomique Bételgeuse. Alors vous
Elle
mettez
bien
des
dit.
Mots vraiment compliqués ce matin.
Bételgeuse.
En tout cas,
ouais.
Vous avez
c'est
les
renseignements. C'est une étoile, Bételgeuse.
C'est... Bah, oui, Bételgeuse. C'est mais vous savez, moi je découvre tout ce matin, je découvre mes notes, vous voyez, ouais. je n'ai pas révisé le bac cette nuit.
Ouais.
Vous avez tous les renseignements sur cette nuit des étoiles au 06 13 08 90 70. Ce n'est pas mon numéro de portable. Ceci étant, je le répète, c'est le 06 13 08 90 70.
Très bien, merci Déborah. Alors j'en profite, Philippe de Gagneville, pour remarquer que depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous êtes assidu du club Bételgeuse. Vous leur empruntez beaucoup leur télescope pour regarder l'horizon 2026.
Donc,
est-ce que vous avez réussi à
avec
voir
un S ou un horizon sans
je ne parle pas du parti que vous avez décidé de rejoindre en regardant l'océan un jour en vous disant merde, putain, faudrait quand même, j'ai une étiquette depuis le temps. Oh bah tiens, horizon. Ça, c'était la première chose. Mais la deuxième, c'était qu'effectivement, les télescopes permettent de voir loin.
Absolument, on voit loin et pour l'instant, l'horizon, il se fixe sur 2026 et la fin du mandat. C'est-à-dire qu'on a encore plein de choses à faire dans les 8 mois qui restent. Et donc, on va se concentrer sur le travail qui nous reste à faire.
Vous voyez, maître, donc, c'est ce qui s'appelle un exercice de langue de bois.
Oui, voilà. je...
Relativement bien maîtrisé.
Je vois ça.
Et là, normalement, si t'es poli, t'insistes pas.
Ah, non, exactement. Vous voyez,
je l'aurai un jour. Je l'aurai.
Je sens bien insister un petit peu quand même.
Je l'aurai. Bon, bah, écoutez, à partir de là, on va peut-être se tourner vers Brutal. Il est temps qu'il travaille un petit peu, parce qu'avant notre pause musicale, on va vous donner un très bref conseil de lecture, parce que nous avons aussi un partenariat avec la Maison de la Presse.
Les coups de cœur de la presse du Ferret. Conseils de lecture, signatures, événements, tout l'été sur Very Good Cap Ferret.
Alors tu vois, Déborah, ne crois pas que le traitement était spécialement réservé. Moi aussi, j'ai droit à ma feuille que je découvre. en l'occurrence, là, c'est donc le coup de cœur de la Maison de la Presse. C'est un conseil de Sarah. Et là, aujourd'hui, on est plutôt du côté du soleil levant, avec un roman de Keigo Higashino. Te plains pas des noms que tu as eu à lire, hein, parce que moi...
À tes souhaits.
Voilà,
c'est ça. Ouais.
Donc c'est dans la série Kaga... Kiyoshiro, voilà, Kaga. Mais en japonais, ça ne veut pas dire la même chose.
C'est les japonais absents.
C'est le tome 4 sur 4 qui est paru aux Actes Sud. Donc, le piche, comme on dit, le piche-piche, c'est une famille qui perd ses deux enfants dans un tremblement de terre, comme ils sont relativement fréquents au Japon. Donc, les parents décident d'avoir un autre enfant pour survivre à cette perte. Et 15 ans plus tard, une femme est assassinée dans son salon de thé à Tokyo. À la même époque, Matsumiya, que les lecteurs ont rencontré dans Les Doigts Rouges, reçoit un appel d'une femme qui lui dit qu'elle est sa demi-sœur. Alors, est-ce que tout ça est lié? Et de quelle façon, c'est ce que vous allez découvrir justement dans ce roman de, je le répète, Keigo Higashino. Rodan. Elle est de nationalité bien évidemment japonaise, comme son nom l'indique. Elle est née à Osaka, sur l'île d'Honshu. Elle est née en 58. Elle est autrice de romans. Tonton, il faut mettre autrice, pas auteur, c'est fini ça.
Mais je croyais que c'était un homme en fait.
Ah, écoute,
j'ai pas dû bien voir le truc.
C'est une très bonne question. Remarque que je l'ai assimilé
Keigo,
femme.
Tu vois
mais
j'ai vu la photo. C'est une femme qui serait très homme en fait.
Ah bah d'accord. Alors c'est un écrivain alors du coup.
C'est
qui,
ça.
Qui est auteur. Pardon.
Mais après tout, on sait pas. Tu tombes peut-être pile.
Non, c'est vrai.
Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus.
C'est durant ses années de lycée qu'il commence à s'intéresser au polar et qu'il compose ses premiers textes. À seulement 27 ans, il est couronné par le prestigieux prix Edogawa Rampo pour son roman Hokago. L'obtention, vous avez noté la prononciation. L'obtention du prix lui permet de se consacrer pleinement à sa carrière d'écrivain. Et du coup, tout au long de sa carrière, il a publié maintenant plus de 66 romans, 20 collections de nouvelles et un livre illustré. Une vingtaine de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, ce qui est plutôt gage de qualité. Une dizaine à la télévision japonaise, mais également coréenne, du Sud ou en Chine. Corée du Sud, hein, pas du Nord, parce que la littérature en Corée du Nord, c'est autre chose.
Exactement, bah merci.
Maison de la Presse, boulevard de la Plage au Cap Ferret, le partenaire de l'été.
Prenez un bon bain de soleil à l'hôtel de la Plage de l'Herbe. On y passe la journée, on y croise tout le monde et puis on y est heureux.
Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Prenez un bon bain de soleil à l'hôtel de la Plage de l'Herbe. On y passe la journée, on y croise tout le monde et puis on y est heureux.
Bon, je vais lui couper son micro à la tropézienne parce qu'elle n'a pas compris le principe.
Mais
en fait.
Si. Mais on a voulu de ça. On a envie d'avoir cette chaleur du Sud,
cette fraîcheur, cette spontanéité.
Et en plus, elle n'est pas vilaine à regarder, je vous le dis tout de suite. Donc, franchement, c'est une très belle journée pour nous. Alors, j'en précise d'ailleurs les raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait, tu te rappelles, les échanges entre étudiants. C'est-à-dire que nous, on a une clémence. qui est là depuis le début de la saison, qui est notre Clémence à nous, et qui en fait de temps en temps va à la plage, mais à la plage dans le sud. Et donc là, elle est partie à Sainte-Maxime. Ce qui fait qu'en fait, on récupère une tropézienne pour aujourd'hui, et on a la ferré-capienne ou l'arcachonnaise ou la moloyenne, je ne sais pas comment on dit, qui est à Sainte-Maxime. Tu vois, donc c'est un échange culturel en fait. Et donc, je vous donne rendez-vous dès lundi, bien évidemment, puisque Clémence revient avec nous à l'antenne pour son célèbre programme, désormais Clémence à la plage, où elle nous envoie des petites impressions de là-bas du sud-est. Donc tu vois, c'est culture croisée aujourd'hui, Déborah.
Parfait, ça me plaît. Voilà. On salue votre consoeur.
Clémence, elle s'appelle.
Clémence.
Et voilà. Il y a une certaine similarité entre le climat, les villes d'en face, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Arcachon, le Cap-Ferret.
C'est pas faux.
Exactement.
L'immobilier.
Exactement. C'est tout vrai. À l'heure, d'ailleurs, Déborah expliquera donc à Philippe de Godeville que c'est beaucoup mieux là-bas. Mais c'est encore une autre histoire. Et pour faire suite à la chronique Maison de Presse, pendant la pause, on demandait si, malgré son emploi du temps un peu compliqué, Philippe de Godeville avait le temps de bouquiner.
Bah, j'essaie de lire au moins une demi-heure tous les soirs, parce que pour moi, c'est essentiel. Alors, je ne suis pas un grand fan des écrans, je reconnais que je suis de l'ancienne génération. Par contre, le livre, tourner des pages et lire, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'essaie de lire tous les soirs, régulièrement.
Bon, bah, écoutez, un auteur ou deux favoris
Alors, les derniers que j'ai lus, Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem. Après, j'ai lu le dernier bouquin d'un de mes mentors, Édouard Philippe. Et là, je suis sur
Horizon.
Horizon, absolument. Ouais. Et là, je suis sur Étienne Klein, qui est venu faire une conférence dans le cadre de Cap Philo, qui était absolument remarquable. D'une intelligence incroyable, et quand vous l'écoutez, vous avez le sentiment que vous êtes vous-même intelligent. Ça, c'est vraiment génial.
Il me le faut tout de suite.
Lui, au moins, il n'est pas sur le déclin.
En complément de ses écrits, je me permets aussi quand même de dire qu'en podcast, on peut trouver son podcast de France Culture, après tout, on peut.
Absolument.
Qui s'appelle La Conversation Scientifique et qui aborde des sujets aussi divers et variés que, par exemple, la physique quantique ou aussi encore comment aspire un aspirateur. Une heure sur comment aspire un aspirateur.
Ça, je peux vous montrer aussi.
C'est beau, Berlo. Bon, bah, écoute, il est temps de passer à la présentation de Philippe de Godeville, que je me permettrai d'interviewer avec vous, les amis, d'ailleurs, si vous le souhaitez.
Oh oui.
Alors, Philippe le Harivel de Godeville, maire de Lège-Cap-Ferret, ça sonne déjà pas mal, vous ne trouvez pas ? Imaginez un chirurgien dentiste dont le cabinet compte désormais de nombreux associés, qui a vécu ou reçu un sacré bon timbre de voix, vous l'avez entendu, plutôt pas mal de sa personne, toujours bien mis et portant bien la fringue, ça commence à devenir carrément agaçant, non ? Alors pour tous ceux que ça défrise ou pour tous ceux qui voudraient devenir un jour calife à la place du calife, imaginez quand même que du jour au lendemain, ce mec ne peut plus jamais traiter personne de connard. Imaginez-vous enchaînant discours sur discours dans lesquels à chaque fois tout le monde est formidable, indispensable ou merveilleux. Projetez-vous dans des bals, dans des fêtes, dans des concerts de cymbales justement, en train de vous régaler, mine réjouie de tentacules de sèches mal cuits ou de confitures de mûres de ronciers recueillis au bord des chemins où les gens se soulagent. Pensez que ce soir vous n'allez pas toujours pouvoir commencer cette série sur Netflix que vous projetez de regarder depuis 1912 et qu'en appelant en vain votre chien, votre voisin vous rappelle aimablement que vous n'en avez plus depuis l'année dernière. Alors certes, la vice-présidente du club de bowling vous regarde avec des yeux énamourés et ses cheveux délicatement violets vous rappellent le bon chocolat chaud de grand-mère. Mais n'empêche, monsieur le maire, je prends aujourd'hui l'engagement solennel que je vous laisse volontiers votre boulot. Voilà pour cette petite présentation, donc j'enchaîne tout de suite. Alors vous allez me dire que tout ceci est amusant, mais que non, l'engagement d'une commune vis-à-vis de la population, je vous entends. Sérieusement, après presque la totalité d'un mandat, le job est toujours aussi motivant ?
Alors c'est même un peu plus que la totalité d'un mandat, parce que ça fait un mandat et 2 ans.
Ce qui s'appelle un mandat lire.
Lire, je ne sais pas, mais oui, c'est toujours motivant. Alors c'est vrai que tous les jours ne sont pas très marrants, et il y a des fois où c'est un peu difficile. On est confronté à de nombreuses doléances de nos administrés, mais c'est quand même quelque chose de passionnant. Et nous avons une commune passionnante, très très complexe, très compliquée, avec de nombreux enjeux, avec à la fois une population sédentaire et une population estivale, à la fois des intérêts divergents entre le Cap-Ferret et l'Aige, à la fois des problématiques liées à notre état de presqu'île, la submersion marine, l'érosion, à la fois un environnement que nous souhaitons à tout prix pour protéger, mais qui génère des contraintes dans la vie de nos concitoyens qui sont considérables. Voilà un petit peu le melting pot que nous avons à gérer. Alors c'est contraignant, mais c'est passionnant.
Encore, c'est aujourd'hui ça va mieux. Mais moi qui suis un vieux de la vieille, je jouais au football au Cap Ferret, pas à l'Aige Cap Ferret. Et donc quand on se rencontrait entre, alors pas, on n'était pas au même niveau, l'Aige était meilleur que nous. Mais n'empêche que si par hasard d'une coupe de district ou de ce que vous voulez, on se rencontrait contre l'Aige, c'était une rivalité absolument incroyable. L'Aige détestait le Cap Ferret, c'était les riches, et puis bah, le Cap Ferret détestait l'Aige, c'était les paysans.
Alors c'est vrai que ça a été réuni il y a maintenant 50 ans. Ouais. Même un peu plus. Et que pendant des années, des rivalités ont eu lieu entre le sud et le nord, puisque la partie sud était à la ville de Lateste de Buch. Et par conséquent, en 1976, la presqu'île est née et nous avons mis un certain temps à réunir de façon effective l'ensemble des deux parties.
Très bien.
Alors il y a encore des intérêts divergents, c'est une évidence. Ouais. Et tout l'enjeu du maire que je suis, c'est de mettre le curseur au bon endroit pour satisfaire à la fois les habitants du Ferré, les habitants de l'Aige et puis les habitants de l'ensemble de la presqu'île.
Ouais, c'est une espèce d'atavisme, c'est-à-dire que les habitudes, on la peau dure.
Les habitudes ont la peau dure, ouais. Mais je crois que c'est par le travail au quotidien et par notre volonté farouche d'unité entre les 11 villages de la presqu'île que nous arrivons à faire.
Très bien, alors 11 ou 14 ?
11.
Voilà, parce qu'il y a des lieux-dits qui se réclament d'être des villages à part entière.
Alors,
des principautés.
Officiellement, c'est 11 villages.
Voilà. Ok, donc ça c'est pour effectivement cette espèce de complexité d'une presqu'île. Alors après, moi je parle en tant que type qui fait des photos amateurs. Eh ben, tu fais 200 mètres, tu tombes de l'Amazonie à des mangroves, à des Hamptons, on change de paysage tous les 500 mètres. Quoi.
Tous les 500 mètres. On a des paysages absolument extraordinaires. Les prés salés de l'Aigearès aux dunes du Cap Ferré. On a également des entités comme les villages ostréicoles qui sont uniques en France. Oui. On n'a pas d'autres endroits en France où on a des villages ostréicoles qui sont sur le domaine public maritime et qui sont habités et par des professionnels et par des non-professionnels et qui sont aussi des lieux de travail.
D'accord.
Donc c'est une mixité absolument merveilleuse. Et nous militons pour que ces lieux restent des lieux de mixité, mixité sociale, mixité entre professionnels et non professionnels.
Alors c'est amusant ce terme, important ce terme de mixité, parce que je me souviens il y a très longtemps quand j'avais fait une demande auprès de ce qu'on appelait jadis le CSA pour avoir une fréquence avec une autre radio à l'année, dans ma profession de foi j'avais expliqué que notre mission c'était de défendre la mixité, parce que pour nous historiquement finalement la population de l'Aige Cap Ferret n'est pas si ancienne que ça, tu vois en fait. Et de ce fait, dès le départ, il y a une espèce de, vous rappelez Saint-Exupéry qui disait l'amour c'est regarder ensemble dans la même direction, et bien vous aviez des chasseurs parisiens, des gens un peu fortunés, des villes qui venaient et qui étaient copains avec les premiers qui traversaient. Et donc que ce soit les générations Cocteau, Radiguet ou plus tard les Ventura et maintenant les Canet, etc., il y a toujours un pêcheur, un ostréiculteur, un mec du coin, y compris dans les villages d'ailleurs, qui est voisin d'un ami parisien, bordelais. Cette mixité, c'est le cœur de la presqu'île.
Mais c'est notre identité. Et je crois qu'il faut rebondir sur notre identité de Liégeois Ferré-Capien. Et cette identité est revendiquée par beaucoup. Non seulement les habitants permanents, mais également celles et ceux qui nous rejoignent de façon très temporaire.
Ouais.
Parce qu'on a une identité forte malgré la jeunesse de notre commune. Il faut savoir qu'il y a 200 ans, il n'y avait pas de commune de l'Aige Cap Ferret. Il y avait une langue de sable qui a été plantée avec des pins.
C'est ça,
Et par conséquent, on a un territoire extrêmement jeune, contrairement à Saint-Tropez, par exemple, qui sont des territoires beaucoup plus anciens. Et cette jeunesse de territoire favorise, me semble-t-il, notre volonté farouche d'avoir une identité propre.
Ouais.
On voit des territoires, on voit aux États-Unis par exemple, qui sont des territoires jeunes, leur volonté farouche d'identité américaine. Eh bien chez nous c'est pareil.
C'est vrai.
On a une volonté farouche d'identité de la presqu'île, d'identité de Léjois Ferré Capien. Peut-être plus qu'ailleurs, peut-être plus que dans des territoires qui sont anciens et qui ont deux siècles d'histoire derrière eux.
D'accord. Bah, écoutez, c'est important de le préciser. Je continue aussi avec, évidemment, l'actualité immédiate. Cette fois-ci, 1er août, c'est une date qui est à la fois importante et symbolique, puisque arrivent, on va dire, les 2-3 semaines qui vont faire toute la différence, finalement, pour les commerçants locaux. Bon, certes, ils sont pour la plupart ouverts à l'année. Il y a du progrès là-dessus, d'ailleurs, parce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on se comptait un peu. Mais... même s'il y a encore toujours plus à faire. Mais aujourd'hui, ça va être le rush. Et donc, qu'en est-il une des intentions affichées depuis déjà quelques années de mieux amortir cet impact de bagnoles, ces bouchons? Il y avait quelques mesures qui avaient été proposées, lesquelles ont été mises en place, et dans quelle mesure on peut constater, là, maintenant, avec le rush, qu'elles sont efficaces?
Alors efficace, je ne sais pas, c'est à chacun d'en juger. On a vu que le mois de juillet n'avait pas connu de problème de mobilité majeure. Les encombrements étaient raisonnables ce mois de juillet.
Et le business aussi.
Ouais. Donc si vous voulez, attention à ce que l'on propose. C'est vrai que pour essayer de résoudre ce problème de mobilité, on a construit des pistes cyclables et des voies vertes. Ça, c'était extrêmement important, de façon à proposer des alternatives aux tout-voitures. Deux, on a créé un réseau qui s'appelle Réseau Pouce,
oui.
Qui permet de l'autostop encadré,
ouais.
Et qui permet de sécuriser l'autostoppeur et l'autostoppé.
Alors tu vois, Déborah, tu te rappelles que tu avais peur de monter dans le camion du monsieur.
C'est ça. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que Hervé m'a gentiment proposé de me conduire jusqu'ici. Il m'a dit, je viens te chercher longtemps. Dans une camionnette rouge. Je me suis dit, ça y est, c'est l'affaire du trou qui recommence. Et après, on est venu par ici et c'était indiqué le truc vert. Alors je me suis dit, bon, pourvu que je ne vois pas le truc rose arriver...
Eh oui.
Ah, mais tu crois qu'il fait comment? C'est une technique sans son camion.
J'ai mis longtemps à peaufiner la.
Je vous rassure, technique. Je suis sous signal balise GPS. Mes parents sont avertis. Tout le monde sait où je suis.
Parfait. Bon, quoi qu'il en soit, fin de la parenthèse humoristique, mais oui, il était donc question de gigantesques parkings, de peut-être créer, alors là, on est dans le délire, mais ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, des péages, enfin des difficultés. Créer des choses trappes finalement pour dissuader l'automobiliste de venir jusqu'au bout.
Alors c'est vrai qu'on a un ressenti parfois de surtourisme qui est lié à mon avis à deux choses. La première, c'est les problèmes d'encombrement sur nos routes, c'est-à-dire qu'on a une seule route, ouais. Qui est overbookée plusieurs heures par jour. Mmh. Et le deuxième, c'est les modifications de comportement. Et notamment celles et ceux qui ont remplacé des maisons familiales par des maisons que je qualifierais de Airbnb. C'est-à-dire qui accueillent deux, voire trois familles et qui modifient les comportements. Parce que quand vous accueillez deux ou trois familles, vous avez des enfants de 2 à 18 ans qui, à 2 ans, se réveillent à 7h30 et qui, à 18 ans, se couchent à 3h du matin. Et par conséquent, il y a un ressenti qui ne correspond pas forcément à la réalité du surtourisme. Néanmoins, nous, dans ce cadre-là, nous avons étudié la possibilité de réguler l'accès, ouais. À la presqu'île,
voilà.
Par différents moyens.
Lesquels?
Alors, il peut y avoir des moyens financiers, c'est un péage. Il peut y avoir des moyens aléatoires, ça peut être la plaque minéralogique.
Ça n'a aucun intérêt d'aléatoire. On est en Gironde ici.
Aléatoire, c'est sympa. Hein. Peut-être moins que c'est le Cap Ferré, mais c'est sympa quand même. Soit des moyens d'horaire, c'est-à-dire que entre... je dis n'importe quoi, mais dit entre 11h et 13h, eh bien, seuls ceux qui ont une bonne raison d'accéder à la presqu'île. Pour le moment, nous avons décidé de reporter un petit peu ces mesures-là. D'abord, sur le plan juridique, elles sont difficiles à mettre en œuvre,
ouais.
C'est-à-dire qu'il faut les argumenter. Et sur le plan constitutionnel, ce n'est pas toujours simple. Si on n'apporte pas soit un service, soit une motivation, notamment d'ordre sécuritaire, oui. Ou environnemental, mais c'est vraiment quelque chose que nous gardons sous la main si d'aventure c'était nécessaire. Je rappelle aussi que dans le cas des mobilités, on est en train de mettre au point un transport en commun qui s'appelle Allego,
okay.
Qui va augmenter de façon très significative puisqu'il va doubler la fréquence des rotations entre Lèchebourg et le Cap Ferré.
Ouais.
Et avec ces différents moyens, qui ne sont pas des moyens extraordinaires, mais qui sont des petites touches, nous espérons limiter l'impact de la présence des véhicules automobiles sur nos routes. Je rappelle une chose, c'est que vous avez entre Lège et Claoué, à peu près dans les périodes de fréquentation estivale, 22 000 véhicules jour.
D'accord.
Et on sait pertinemment que à partir du moment où ça dépasse 18 000, il y a des bouchons. Voilà. Donc l'idée, ça serait de limiter à 18 000. Alors 18 000, c'est ce que nous avons vécu la plupart du temps au mois de juillet de cette année.
Tu sais, le mec qui a rien compris. Toutes les voitures qui valent moins de 18 000, vous pouvez pas.
Terminé. C'est un peu la ZFE, ça. Hein.
A priori, mais en version
zone de forte exclusion.
Balnéaire. Alors voilà ce que je vous propose. On a un petit appel à la dépêche à passer dans quelques minutes. Pour cela, c'est plus pratique d'être en musique. Et avant même, on pourrait peut-être remercier deux de nos partenaires. Et puis, bon, on enchaîne par de la musique. Et j'appelle la dépêche pendant ce temps-là. Et on se retrouve dans 4-5 minutes.
Ceci est un communiqué Sispé.
Sispé est un pionnier des solutions de paiement en ligne, offrant une technologie financière innovante pour garantir la sécurité des transactions et la rapidité des paiements. Nous anticipons vos besoins pour améliorer votre rentabilité et alléger vos processus administratifs. De la réservation au check-out en passant par le check-in, le bar, le restaurant et le spa, optez pour Sispé pour gérer toutes vos transactions et consacrez-vous à ce que vous faites le mieux, accueillir le client et lui offrir une expérience inoubliable. Des centaines d'hôtels et de conciergeries à travers l'Europe nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous? Pour plus d'informations, visitez notre site web et contactez-nous à l'adresse sispé.com.
Non mais, tu bois de la pression maintenant.
Faudrait peut-être te mettre à la page, ma chérie.
C'est du blime.
C'est sublime? La pression.
Bon d'accord, je t'explique. Du blime. B-L-I-M. Du Bordeaux blanc, de l'eau, des arômes naturels et des bulles.
Ah, d'accord. Ça a l'air bon, dis donc. Et sacrément rafraîchissant.
Blim. Blanc de bulles. Un vrai vent de fraîcheur pour l'été.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Yeah. Soleil à l'hôtel de la plage de l'Herbe. On y passe la journée, on y croise tout le monde et puis on y est heureux.
Et oui, on est très très heureux, surtout quand je m'embrouille les câbles du Cascos et que j'arrive même plus à le mettre sur mes oreilles.
T'as un problème de nœud ?
Oui, c'est peut-être un peu ça. Mais d'ailleurs, tout à l'heure en météo, on verra qu'il souffle entre 12 et 21. Donc, je suis encore un petit peu léger. Quoi qu'il en soit, c'est le moment d'appeler les amis de la Dépêche. Donc, je vais réussir ma petite gymnastique, ça y est.
Ils ont fait vite, hein.
Composer le numéro de Léa, parce que c'est Léa qui est avec nous aujourd'hui. Ils ont une jeune stagiaire très sympathique, Léa et Valentine. Ce sont les deux jeunes femmes que nous allons avoir au téléphone dans quelques secondes.
Very good news, avec la Dépêche du bassin. Que les bonnes nouvelles de l'été.
Ah non, Léa, moi j'aime bien, elle est dynamique. Bon, c'est pas que les autres soient pas dynamiques, mais on sent qu'elle est bien. Les autres, ça roule un peu, tu vois, c'est un petit peu quand même...
Exactement. Alors Léa est avec nous, Valentine.
Bonjour. Léa, c'est l'appareil.
Alors, est-ce que tu es, je veux dire, ostraciste vis-à-vis du reste de l'alphabet ? Ce sont simplement Léa ?
Et pas mon prénom. Alors, j'ai quatre autres prénoms, enfin trois autres en comptant Léa, si tu veux savoir les autres. Mais,
parce qu'en fait, mon prénom, c'est Léa. Oh.
Mon prénom Léa me convient très bien.
Parfait. Alors écoute, tu as bien sûr pardonné cette plaisanterie qui ne restera pas dans les annales. Et nous sommes avec Philippe de Gonneville, maire de Lège-Cap-Ferret, comme tu le sais. Avec Déborah, dont le nom de famille comporte plus de deux syllabes, donc je suis incapable de m'en rappeler. Et bien sûr Brutal, que tu as déjà eu également à cette antenne. Voilà.
Bonjour, Léa.
Et puis, on te salue. On est heureux de, bien sûr, avoir cette petite quotidienne avec la Dépêche du bassin. Alors, dis-nous de quoi tu voudrais nous parler.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, plutôt dans pour le premier sujet, c'est plutôt un conseil ou alors un avis. Un avis aux parents qui ont entre guillemets un peu marre de donner de l'argent de poche à leurs enfants.
Oui,
et donc je leur conseillerais du coup d'être, parce qu'on sait donc tous les étés nous avons donc les fêtes d'été du bassin d'Arcachon, où toutes les villes ont un peu leurs fêtes d'été, et donc nous c'est les fêtes du port qui ont démarré hier soir, donc en tout cas au niveau de la restauration donc hier soir sur le port de la Teste.
Très bien.
Et du coup, moi, je connais plein de jeunes donc dans ma résidence qui étaient super contents de me dire qu'ils s'étaient fait vachement de pourboire hier soir.
Bien.
Et donc, du coup, je trouve ça génial, en fait, parce que ça commence à partir de 13 ans, je crois. Mmh. Et donc, d'être bénévole dans sa ville, d'aider les plus anciens. Enfin, voilà, ça a une dimension... Ça a une dimension, je trouve, qui est super, et ça permet du coup de se faire un petit peu d'argent de poche.
Formidable.
Voilà. J'espère juste que ma mère n'écoute plus la radio à ce moment-là.
Alors rassurez-moi, Philippe de Gonneville, est-ce que les bénévoles de Lège-Cap-Ferret demandent des pourboires ?
Eh bien, c'est exactement la question que j'allais poser à monsieur le maire.
Ah bah tiens, regarde.
Alors non, il n'y a pas de pourboire, tout va à l'association. Là, ici, sur la fête de la Presqu'île, vous avez deux associations qui travaillent. La première, c'est le handball.
Ouais.
Qui organise un petit peu l'ensemble de la restauration. Et vous avez également le judo.
D'accord.
Qui, lui, c'est plutôt les boissons. Voilà.
Le judo.
Et là, le judo.
C'est pas très sexy comme boisson.
Mais on peut prendre du judo et plein d'autres jus.
Je pensais qu'il y avait aussi l'association de malfaiteurs dont elle ne vient pas cette année.
Non, elle ne vient pas cette année. Non, exceptionnellement, on la met de côté. Et l'ensemble des recettes va aux associations de façon à pouvoir accueillir nos jeunes ou moins jeunes de la commune pour leur faire pratiquer du hand, du judo ou d'autres sports.
Ouais. Exactement. Léa.
Oui. Alors, et donc, ma deuxième petite info que j'ai envie de vous donner, c'est donc un festival qui se tient demain, demain samedi 2 août, à l'espace Brémontier d'Arès.
Très belle salle d'ailleurs, monsieur le maire, au passage.
Exactement. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce festival ? C'est la quatrième édition du Beatbox Arès Festival.
Si c'est alors, le Beatbox, je peux participer.
Alors, beat en anglais, B-E-A-T.
Le rythme.
Beatbox, voilà, exactement. Donc, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que le beatbox, c'est pour faire, pour vulgariser un petit peu, c'est toutes les possibilités rythmiques et tous les sons possibles et inimaginables qu'on peut faire avec la voix.
Moi, j'ai rien compris, j'allais mettre mon sexe dans une boîte et l'amener à Brémontier.
Ah, non, c'est pas ça, non.
T'inquiète pas.
Donc, voilà, c'est. Et je trouve qu'on peut le mettre en avant parce que c'est une discipline qui est quand même assez méconnue. C'est quand même sympa et assez extraordinaire de voir ce qu'on peut faire avec des sons de bouche.
Exactement.
Et cette année, en plus, la dimension, elle est, si vous voulez, c'est pas comme une compétition et une battle où il faut à tout prix gagner, vaincre celui qui est en face de nous. C'est plutôt une collaboration.
Très bien.
Les jeunes sont sur scène et voilà, ils peuvent improviser, ils peuvent et du coup faire une collaboration entre eux. Voilà, donc c'est de 18h à 22h30 à l'espace Brémontier d'Arès.
Et il y a des trucs vraiment génial. Il y a des trucs vraiment impressionnants. Hein. Il y a des gens qui arrivent à sortir des sons avec leur bouche, des sons de basse un peu limite de didgeridoo, et puis en même temps ils font le battement derrière.
C'est assez incroyable.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Moi qui est pareil, je ne connaissais pas énormément. J'en ai vu ces dernières années. Il y en a qui sont vraiment vraiment très très talentueux, quoi.
Exactement. Alors déjà, moi, je voudrais faire un remerciement officiel à Brutal, qui a vu tout à l'heure que je piaffais d'impatience de faire une mauvaise blague et qui s'est sacrifié, qui s'est jeté devant le train pour me soulager de cette plaisanterie saugrenue. Donc merci, camarade.
Oui, t'avais de la fumée qui sortait des oreilles.
Frère, je te remercie infiniment. Léa, écoute, on te remercie nous aussi beaucoup. On va passer maintenant à une petite page de météo. Et figure-toi qu'elle est piège, parce qu'en fait, nous avons Déborah avec nous, qui ne sait pas ce qu'elle va lire. Tu te rends compte ?
Donc,
ça va être peut-être quelque chose. Quoi qu'il en soit, Léa, et puis parce que tu étais peut-être avec ta collègue Valentine, on vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite vraiment vraiment un beau week-end
merci pas de vous à amuser. Vous et on se voit la semaine on se parle la semaine prochaine
as you want. Merci infiniment La Dépêche et à très bientôt.
La Dépêche tous les jeudis pour tout savoir sur le bassin.
Et voilà, et donc maintenant, notre amie Déborah va retourner une feuille, donc je répète qu'elle découvre le contenu et va nous faire une page de météo.
La very good météo.
Allez-y.
Oh mon Dieu, quand je vois tout ce qui est inscrit sur cette page et dont je n'ai point le contrôle, je prends peur.
Allez, ferme les yeux, vas-y.
Allez, enfin, je ferme les yeux. J'ouvre la bouche quand même pour parler. Hein. Je dois commencer par dire que je suis condamnée à lire une météo que je n'ai pas écrite et dont je n'ai pas eu le droit de prendre connaissance avant cet instant même. En cas de besoin, je vous prie donc de porter plainte contre Verygood Limited, 33 bis rue de la fraude fiscale, Malta, Cedex. Oh, ça c'est la même adresse que chez mes parents.
Voilà.
C'est un ciel plutôt nuageux qui nous attend aujourd'hui avec des températures toujours inférieures aux normales saisonnières pour le sud-ouest de la France, mais largement supérieures à celles de Saint-Pierre et Miquelon où vous projetez justement de vous rendre dès que le déficit public de la France sera résorbé et que Michel Sardou sera président de la République. 22 degrés donc pour vendredi, mais ça va monter le long du week-end, c'est normal, je suis là. Et en plus, les nuages vont progressivement disparaître, de quoi favoriser nos fêtes de la presqu'île qui se dérouleront ainsi dans les meilleures conditions. Le vent ne va toujours pas varier de cette direction nord-ouest à laquelle il reste bêtement accroché, restera calé entre 12 et 21 nœuds, ce qui permet de pratiquer la voile de façon agréable, mais oblige à tirer toujours les mêmes bords, ce qui finit par saouler tout le monde et provoque une ruée vers les semi-rigides, autrement appelés demi-molles, qui attaquent la houle sans vraiment lui faire mal. Et à propos de la houle, côté océan, les vagues sont vraiment rikiki, et cette consonance n'a d'hawaïenne que le nom, car avec 60 cm de haut, eau. Même monsieur le maire pourrait faire du longboard en tenue de dentiste sans se mouiller la fraise. La flotte est à 19 degrés, comme la sangria que Jeannot va vous servir ce soir pendant le bal, car il a confondu le picrate avec du cinzano. L'indice UV est totalement inoffensif puisqu'il culmine à 4. Je peux vous assurer que si le tarbouif Jeannot, il est tout rouge, c'est pas à cause du soleil. La mer est basse à 16h55, ce qui émernuit tout le monde puisqu'il n'y a pas d'eau de tout l'après-midi. Les pêcheurs à pied qui allaient dire que non, pour eux, c'était super parce qu'ils allaient pouvoir taquiner la crevette, vont déchanter direct en apprenant que le coefficient sera de 42,42. Oh là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme le département de la Loire et de la belle ville de Saint-Étienne où je rêve d'habiter juste après Miami et Dubaï. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Perso, j'en ai fini avec ce cauchemar.
Après un gros bain de soleil sur Very Good Cap Ferré, on prend une bonne douche. Et on va faire ce qu'on veut.
Elle est des nôtres.
On peut lui faire une ovation. Félicitations, Déborah.
Merci.
Franchement.
Merci beaucoup.
Pas facile, surtout pour lire les sottises que je ne sais quel pitre écrit.
Mais je me suis reconnue dans des expressions.
Exactement. Alors maintenant, monsieur le maire, vous avez encore un petit répit avant la suite de l'interview, puisqu'on a un extrait, disais-je tout à l'heure, un petit podcast de l'Office du tourisme, dont vous fûtes président d'ailleurs à une époque.
Effectivement, j'ai été président de l'Office de Rhin de 2008 à 2014.
Marche-pied pour une carrière politique, finalement.
Ça, c'est vous qui le dites.
Oui, je le dis. Et donc, nous allons parler des clubs de plage. Tiens, allez.
Les Escapades Sonores, des podcasts de l'Office de Tourisme de l'Escap-Ferret qui vous plongent dans les histoires locales et les moments authentiques que l'on partage avec les gens d'ici. Réalisé par Saison 5 et Vue du Cap.
Elle est bien allongée sur le dos. Petit moteur, tranquille, sans tenir la frite avec les mains. Moteur, action !
On avait connu le club. À l'époque, il n'y avait pas de piscine sur place. Et les enfants qui voulaient apprendre à nager apprenaient dans le bassin. Et en fonction des marées, la leçon de natation était à 9h, 10h du matin dans le bassin.
Il n'y avait pas de combi à cette époque-là. Donc, quelquefois, ça caillait un peu.
Ça, c'était pour notre fils aîné qui n'est pas là, lui, actuellement. Et après, notre fille, elle a appris aussi à nager.
Mais toute seule dans le bassin.
Mais elle venait au club et elle jouait.
Tu avais 4 ans, tu sautais sur le grand trampoline, là.
Bonjour Axel.
Bonjour Antoine.
Ça va Mathis?
T'as dormi? En forme?
Bonjour. Oh Camille. Tu connais le jeu du croco?
Il y avait beaucoup d'enfants. Tous les jours, il y avait des concours de châteaux de sable, de compétitions, de courses, de ceci, de cela. Chaque soir, chacun était appelé par son nom. Il y avait une remise des prix, des cadeaux. C'était très sympathique. C'était dans les années 80.
Vous asseyez à l'ombre, s'il vous plaît, par le soleil. Je vais t'offrir les cadeaux.
Allez. On aura le tatouage.
Ils aiment beaucoup avoir le petit tatouage du club dès le début de la semaine. Et donc on voit nos petits balous arriver avec leur tatouage dès le mardi.
Et après, t'es né en 2014, donc en 2017.
À 3 ans et demi.
La première fois qu'on est venu ici avec elle. Oh, une piscine, mamie, je veux aller dans la piscine.
Kangourou, on traverse la piscine. Le kangourou, il avance comment?
Comme ça.
En sautant. Sacha, fais des bulles sous l'eau. C'est parti.
C'était un bonheur, les cours de natation.
On essaie de lever la tête et de respirer comme un kangourou. Là, on respire vite en une seule fois. C'est dur?
Non.
1, 2, 3. Très, très bien.
T'as jamais eu peur de l'eau?
Non.
Et de Julien?
Non.
Moi non plus.
Et vous savez ce que c'est mon jeu préféré à la piscine, moi?
Non.
C'est de jeter les enfants dans l'eau. Ah,
souviens-toi qu'au début, il mettait quelque chose sur l'eau.
Il y avait un tapis, il y avait enfermé des limpettes.
Et qu'est-ce que tu avais fait après comme type de nage?
Ah, l'étoile de mer, souffler dans l'eau.
Non, l'étoile de mer.
Le chien, le dos croulé.
Et surtout,
aller chercher des choses au fond de l'eau.
Des jeux. Ils arrivent à faire des choses sans même s'en rendre compte.
Petite chasse au trésor, on part sur le ventre, le visage dans l'eau pour voir où sont les trésors. Vous les ramenez en petit moteur sur le dos. Wow.
Et puis à la fin, complètement des vacances.
Bah, un diplôme.
Diplôme, plastifié, protégé, affiché dans ta chambre.
Et il y a le double à la maison.
Bon, c'est l'histoire de beaucoup d'enfants, hein. De Chloé surtout. Après, j'ai des amis qui habitent Paris ou même en Belgique. Et les gosses sont venus apprendre ici.
Voilà un petit peu l'histoire.
Il va encore durer.
Sûrement longtemps.
Alors, il a changé de nom. Peut-être qu'il changera encore de nom. On ne sait pas. Mais l'idée du club et tout ce qu'on y trouve reste. De toute façon.
Passionnante, n'est-ce pas, cette escapade sonore de l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferret? Pour découvrir la suite, rendez-vous sur lège-capferret.com, rubrique blog.
Ah, mais qu'est-ce que tu t'es mis?
C'est de la crème, c'est pour éviter les coups de soleil.
Tu devrais essayer la graisse à chaussures. Et la peau, c'est du cuir?
Ah oui.
Ah,
bain de soleil.
Oui.
C'est pas aujourd'hui qu'on va sortir la graisse à chaussures.
Non, je t'ai dit indice UV4, donc c'est pas comme ça que Jeannot, il a le nez tout rouge. Alors nous sommes de retour dans la Very Good Mobile, nous sommes au bord de la fête de la presqu'île,
puisque
nous voyons de notre petite Very Good Mobile la magnifique baie de Claouet, place Bertique, qui est d'ailleurs, je crois, classée Natura, non, cette zone-là.
Tout est classé Natura 2000.
Oui, effectivement, je ne me disais pas ça en regardant moi-même dans la glace ce matin. Je ne pense pas être classé Natura 2000, mais,
non, mais même
effectivement,
vous êtes
c'est
classé Natura 2000. Aucun problème.
Et je ne le sais pas. C'est bien le problème. Alors quoi qu'il en soit, voilà, on est quand même dans un site très très beau qui fait partie justement des multiples paysages de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret, qui partage d'ailleurs un endroit magique qui s'appelle les Présalés et avec la ville d'Arès. Et je vous recommande par des journées comme ça justement, puisque la plage ça va être moyen, eh ben, d'aller visiter ces Présalés où vous allez découvrir une végétation, une faune si vous avez de la chance aussi. C'est peut-être le seul endroit d'ailleurs de la presqu'île où on peut voir des lézards verts sur la
et
promenade.
Des tortues cistudes.
Aussi, exactement. Vous avez repris les cistudes, non, mais je vais compte m'y mettre l'année prochaine. Et ce qui se passe aussi, c'est que eh ben, vous allez aller voir des expositions, vous allez faire plein de trucs. Quand il ne fait pas beau, il y a beaucoup d'offres. Et on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, l'offre culturelle de Lège-Cap-Ferret s'est considérablement, je dirais, non pas améliorée, mais augmentée depuis déjà plusieurs années. Alors, venons-en maintenant, toujours à cette saison. Les établissements sont fin prêts. Ils attendent, évidemment... l'afflux d'août pour faire leur année, on le disait tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on est toujours dans la problématique du logement pour des saisonniers? Parce que les gens, ils vont venir, mais il faut les servir. Donc, est-ce qu'on est toujours dans cette problématique?
Alors, bien évidemment, nous sommes dans cette problématique du logement des saisonniers, même si nous avons au Sable d'Or un dispositif qui permet d'accueillir 140 saisonniers. Alors, c'est sûrement pas l'idéal. Mais ça permet quand même,
quand même
à nos entreprises de pouvoir loger pendant les deux mois d'été leurs saisonniers dans des conditions qui sont relativement satisfaisantes et à un prix qui est relativement attractif.
Deuxième petite information, puisqu'on parle de saisonniers, il y a aussi des gens qui ont besoin peut-être d'un petit bureau. Donc c'est rigolo, j'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps, là vous avez deux tétrodons qui sont des anciens modules plastiques un peu années 50-60 qui ont été réaménagés, qui peuvent servir de bureau, puisque vous parlez de Sable d'Or, ancien camping, et ceux-là ils sont au Pastourel.
Absolument. Au Pastourel, on a réhabilité deux tétrodons. Ce sont, comme vous l'avez dit, des habitats qui ont été fabriqués dans les années 60.
Voilà.
À l'époque où le pétrole n'était pas cher et on n'avait pas vu les problèmes environnementaux que ça présentait.
Okay.
Et ce sont des structures qui ont une véritable valeur patrimoniale qu'on a réhabilité. Et on propose de faire des espaces de travail pour ne pas utiliser un anglicisme que vous connaissez.
Pas de coworking ici.
Pas de coworking ici. C'est un espace de travail qui est entièrement gratuit et qui permet à celles et ceux qui ont envie de s'isoler avec une Wi-Fi top niveau de pouvoir venir travailler. Ça se passe au camping municipal des Pastourelles.
Voilà.
Et il faut par contre s'inscrire à l'avance parce qu'on est très, très pris.
Ah oui, voilà. Et du coup, je suis allé chercher sur Internet et j'ai eu l'explication parce que la première fois qu'on a parlé de tétrodon, moi, j'ai rien compris. Je pensais qu'on parlait de poisson. Et en fait, ils l'ont appelé comme ça parce que il peut gonfler son corps le poisson coffre. Il peut se développer.
Voilà. Absolument. Ce sont des modules qu'on peut rajouter, qu'on peut même empiler éventuellement.
Ouais.
Et ça permet, si vous avez besoin de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, de rajouter des modules. Et nous en avons gardé un certain nombre. Darwin en a récupéré une douzaine.
Philippe Barthes qui nous écoute, on vient de faire la radio en septembre.
Et puis nous, on en a réhabilité complètement. Et alors, ce qui a été sympa, c'est que la directrice de l'Office du Tourisme a chiné à trouver à la fois du mobilier et couleurs qui rappellent les années 70. Ouais. Et c'est vraiment sympa, cool. Du orange, du marron, des trucs à l'époque, peace and love.
Alors, ouais, effectivement, je vous vois bien venir avec des cheveux longs, une cigarette qui fait rire, pourquoi pas. Alors, donc, on en est toujours un petit peu sur nos saisonniers, les grépins. Alors, c'est un dossier, ça, les grépins. Donc, vous vous rappelez, ces cubes en bois qui, pour certains, représentent une espèce de summum d'architecture artistique et qui, pour d'autres, sont peut-être pas totalement intégrés, peu importe, mais c'est surtout le potentiel de logement qu'ils représentent. Et ces grépins, si j'ai bien compris, mais vous me corrigez bien évidemment, c'est compliqué parce que déjà, à une époque, ceux qui en étaient possesseurs, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, enfin les impôts plus précisément, on voulait une grosse somme. Il se trouve que on pouvait donc pas se payer ça. Il fallait donc chercher peut-être des nouvelles articulations pour pouvoir mettre la main entre guillemets sur ces grépins et pourquoi pas en faire des logements sociaux et ou des saisonniers. Après, il y a eu une négociation, une médiation, ça existe, il y a des commissions qui disent écoutez, l'acheteur et le vendeur ne se mettent pas d'accord, la commune étant quand même prioritaire, on va trouver un accord. Un autre prix a été donné, qui était bien moindre que les 16 ou 17 bâtons de départ, mais qui quand même restait quand même au-dessus des moyens de la ville. Donc on en est où ?
Alors, non seulement ça restait au-dessus des moyens de la ville, mais c'était assujetti à deux clauses. Une première clause pour laquelle on devait reverser 50% d'éventuelle plus-value à l'État. Et là, aucun problème, j'étais même prêt à aller jusqu'à 100%. En revanche, une autre clause précisait qu'à partir du moment où on augmentait la surface de plancher, on devait payer en gros à l'État 166 000 euros par 100 mètres carrés de plancher supplémentaire. Ce qui fait qu'in fine, on arrivait à des sommes absolument astronomiques, sachant que notre volonté, elle est très claire, c'est faire des logements sociaux au Cap Ferré, des logements saisonniers au Cap Ferré, et éventuellement des logements de relocalisation, puisqu'il faudra envisager une montée des eaux. Alors, où en est-on aujourd'hui ? On a mis l'État au tribunal et on a saisi le juge de l'expropriation pour exproprier l'État.
Okay.
Et deuxièmement, notre avocat a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, puisque l'État est jugé parti, c'est lui qui vend et c'est lui qui fixe le prix. Et par conséquent, nous avons déposé une QPC et c'est on en est là. Question prioritaire de constitutionnalité.
D'accord.
Et puisque on dit au juge... l'État étant jugé parti, il y a un problème, donc trouvez-nous une solution. La première étape de la QPC est passée, et maintenant je crois que c'est à la Cour de cassation de se prononcer, et affaire à suivre.
Ok, on va la suivre avec attention évidemment, d'autant qu'on n'est pas loin de ce quartier en ce qui nous concerne. La grogne autour du Mirador, c'est un sujet, depuis quelques semaines, quelques mois, donc il y a eu un réaménagement de cet ancien restaurant que tout le monde connaît sous le nom de Mirador. On profite pour saluer la famille Taxi, qui était évidemment une famille très ancienne de la Presqu'île, et évidemment on connaît beaucoup de membres. Alors je résume, il y a une vraie querelle là-bas, il y a deux camps, c'est-à-dire qu'en fait ce nouvel établissement à la mode, eh bien en fait, peut-être pour certains contestés, par des professionnels, je ne dis pas un professionnel, mais plusieurs professionnels, sur les réseaux sociaux, c'est clivant aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce dont je vais parler et ce que je vais dire, c'est vrai. Donc je dis, explique donc quelque part que la réalisation d'aménagements supposés illégaux, donc que ce n'est pas conforme finalement cette évolution du Mirador. Et d'autre part, il y en a d'autres qui disent oui, mais il faut laisser tranquille le sauveur de la Presqu'île. Ça va, en même temps, c'est joli ce qu'il a fait, donc il ne faut pas l'emmerder. Et puis, ça fait un établissement sympa pour les gens. Donc, vous étiez à l'inauguration. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez choisi votre camp ? Est-ce que ça veut dire que pour vous, tout va bien ?
Alors, d'abord, c'est vrai que je suis passé à l'inauguration. Et c'est vrai aussi que j'ai envoyé par deux fois la police municipale pour faire des rapports. Bien évidemment, c'est la liberté d'entreprendre qui doit prévaloir en la matière. Une société a racheté le Mirador, a déposé un permis de démolir et un permis d'aménager qui prévoyait à peu près la démolition de 30% de la surface construite. Ce qui a été réalisé, et il y a eu effectivement un réensablement de la partie détruite avec l'évacuation de, selon les dires, entre 70 et 200 ou 300 tonnes de gravats. Mmh. Il y avait des fosses septiques, il y avait des fosses pour du carburant, etc. etc. Bon. L'astuce du nouveau propriétaire, ça a été de renaturer avec du sable, attendu qu'il n'y avait pas de relevé topographique préalable. Okay. Il est extrêmement difficile. pour la justice et pour la police ou la gendarmerie de voir s'il y a eu une augmentation du niveau du sable. Ils sont partis d'un niveau zéro qui est au ras de la route pour arriver à un niveau qui rejoint la dune naturelle du sentier qui borde leur propriété. Et par conséquent, de ce côté-là, nous, on a fait des constatations. J'ai interpellé les services de l'État et notamment le préfet en la matière, qui a envoyé des spécialistes de la DDTM et qui nous ont répondu il n'y a pas grand-chose à dire concernant cette problématique-là. Il y avait également deux autres problématiques qui étaient une légère surélévation de la rénovation de la toiture et deuxièmement, il y avait la construction d'un mur pour fermer une communication entre le bâtiment détruit et l'ancien bâtiment. Parallèlement à ça, il y a eu la mise en place de trois mobilhomes et la réalisation de rénovation d'un bâtiment de l'autre côté. Et là, à nouveau, passage de la police municipale à ma demande, nous avons constitué un dossier que nous avons envoyé au préfet et à la gendarmerie, comme il se doit. Le procureur sera saisi et il faudra voir ce que décide le procureur.
Donc il y a une certaine, je veux dire, catégorie, je le répète, de commerçants qui se plaignent finalement de eux ne pas avoir certains droits parce que justement ils rentreraient dans le cadre d'une réglementation très très précise. Certains, je les cite, disent à ce moment-là, moi je vais aller mettre mes affaires sur la plage et puis on verra bien. Donc il y aurait une certaine, comment dire, pas suspicion, c'est pas le mot, mais critique de fait accompli un petit peu d'un côté. Il y a eu une pétition également qui disait que là c'était un peu différent, qu'il y avait une espèce d'appropriation du domaine public. C'est compliqué cette histoire quand même, parce qu'il y a des gens qui ont des arguments des deux côtés. Hein.
Alors la pétition n'a rien à voir avec le dossier du Mirador, la pétition a à voir avec l'emprise de l'arrêté préfectoral qui ferme une zone de plage qui me paraît très excessive. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons avec les services de l'État pour diminuer l'emprise de l'arrêté préfectoral. Ouais. Nous avons écrit il y a environ un mois, nous avons coécrit avec le Conservatoire du Littoral qui est propriétaire du site pour demander à monsieur le préfet de région de limiter l'emprise de cet arrêté préfectoral. D'une part parce qu'il est extrêmement difficile de le faire appliquer vu la surface occupée actuellement et deuxièmement parce que sur le plan réglementaire ça n'a pas de sens. Autant la proximité immédiate, c'est-à-dire les 30 mètres à côté du musoir du propriétaire de la pointe présente un réel danger. Okay. Il me semble que si on tire une droite interdisant l'accès sur 120 ou 150 mètres à l'ouest du musoir, c'est largement suffisant. Nous avons sollicité le préfet pour faire cela. Est-ce qu'il va accéder à ma demande? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va retirer son arrêté pour que je prenne un arrêté municipal? Je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est un, conserver en tout état de cause le domaine public dans ce secteur-là, faire un accès à cet endroit-là vers la plage, et enfin, laisser la liberté de commerce à celles et ceux qui ont l'envie de travailler. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Le procureur a été saisi et on verra ce que décide le procureur en sachant que une partie des constructions seront démontées, puisqu'une partie des constructions est démontable, et en sachant que les mobilhomes seront retirés courant septembre. Et par conséquent, on est dans une logique qui, en zone rouge ou en zone inconstructible, est acceptée par les services de l'État, qui consiste à dire c'est une logique du provisoire. Okay. Vous avez le droit, pendant 3 mois, à faire des constructions éphémères, que vous démontez au bout de 3 mois, et ce, avec un minimum d'autorisation. Et là, c'est vrai que ça crée un certain nombre de peut-être de jalousie ou peut-être d'histoires.
Des histoires pour le cas, oui.
Il faut reconnaître que c'est un lieu absolument magique. Hein, ça, c'est une évidence.
Oui, mais Polanski a du talent.
J'entends bien, mais c'est... Non, ça n'a rien à voir
avec
le sujet.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais là, ne m'emmenez pas vers un sujet qui n'a rien à voir avec cela. Il est évident aussi que les propriétaires, j'entends bien, mais d'abord, ce n'est pas à moi à déterminer. J'ai fait des constats, j'envoie au procureur, le procureur tranchera, ou le juge tranchera. Le procureur poursuivra ou pas, et le juge, si le procureur poursuit, tranchera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la protection du territoire. Et il faut reconnaître que le propriétaire de la pointe protège notre territoire le sien, mais également l'ensemble du Cap Ferré.
C'est un argument ?
C'est un argument...
Corrélé à
ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la légalité. Des. Voilà. Mais au demeurant, je préfère qu'un propriétaire défende son territoire plutôt qu'il le laisse manger par la mer. Moi, mon boulot de maire, c'est de protéger mon territoire et ses habitants. Et bien là, si on protège le territoire que nous partageons collectivement, et si les nouveaux propriétaires du Mirador continuent à protéger ce secteur-là, je crois que ça arrange tout le monde et ça arrange de façon collective la ville de l'Escaferré.
Ok. Dernier post-scriptum concernant cette question un petit peu plus, on va dire, moins fun par rapport à l'été. C'est justement, là aussi, ces mêmes personnes, pas forcément d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parlent également de temps en temps de deux, trois faits accomplis. Je ne citerai pas les établissements, je ne citerai pas les cas précis, ce n'est pas le but ici. Mais quelque part, il y aurait quelques situations comme ça qui auraient été faites un petit peu à l'arrache. Donc, c'est quoi votre regard là-dessus ? Vous vous surveillez ? Vous allez peut-être sanctionner ou c'est fait ?
Bien évidemment, nous surveillons, mais la sanction, elle est donnée par le juge. Mm-hmm. Moi, j'établis un procès verbal qui varie de 35, ça dépend des cas, mais varie de 35 à 135 euros, rarement plus. Ouais. Ensuite, je constitue un dossier que je transmets au procureur de la République, c'est lui qui décide. Et toutes les problématiques, à la fois sur les établissements relevant du accueillant du public, qui ne respectent pas la réglementation, moi, je fais des constatations avec la police municipale ou la gendarmerie. J'envoie au procureur de la République, c'est lui qui fait suivre ou pas le dossier.
Okay.
Et en urbanisme, c'est pareil. En urbanisme, il y a des tas de fois où le procureur classe le dossier vertical parce qu'il considère que ça n'est pas assez important. Je prends le cas, par exemple, des coupes d'arbres sauvages qui sont interdites par arrêté municipal, bien évidemment, ou des clôtures illégales. Bien évidemment, nous faisons un dossier. Nous envoyons ce dossier au procureur de la République. Bien souvent, ils classent le dossier vertical. Sachez que nous avons 50 dossiers d'urbanisme en souffrance aujourd'hui. 50. Voilà.
Quand même. Ok. Écoutez, on va changer tout à fait de sujet, mais d'abord, on va faire une petite respiration commerciale.
La folie de l'e-foil. Glissez avec un coach sur le bassin avec cruise.fr. Vous réservez et vous volez sur l'eau.
Avec son propre bateau, pour vous balader sur le bassin, ses vélos et ses voiturettes électriques pour sillonner la presqu'île, l'hôtel Côté Sable vous emmène à la découverte de notre paradis. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
Pain de soleil sur Very Good Cap Ferret.
Disais-je que l'on changeait tout à fait de sujet. J'ai lu avec stupéfaction, il y a quoi, une semaine, qu'il y avait un début, heureusement, d'incendie qui avait été circonscrit là-bas sur la route Océane, du côté de la ville de Lège, justement, vers le Croc. Parce que, en fait, il y avait des gens qui avaient fait un feu de camp en forêt. Donc comment, en 2025, déjà, on peut faire des feux de camp en forêt après tout ce qui s'est passé ? Heureusement, donc, quelqu'un l'a repéré très vite et a pu prévenir les services du SDIS et tout ça qui sont venus éteindre ça. Mais alors, même s'il ne fait pas très beau pour l'instant, il y a quand même un petit peu de vent. Donc un feu, ça peut aussi beaucoup se nourrir de vent. Comment c'est possible en 2025 qu'il y a encore des connards, pardon pour l'expression, qui fassent des feux de camp, quoi ?
Alors c'est vrai que pour le moment, nous sommes en vigilance verte, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies pour qu'un gigafeu se déclenche. Néanmoins, j'appelle à la vigilance de
Rappelez-nous
tous.
Rappelez-nous les consignes et les mesures.
Les mesures, c'est bien évidemment la forêt est ouverte, notamment, alors pas aux véhicules à moteur, mais aux vélos, notamment par les pistes cyclables. Ouais. J'appelle à la vigilance à ne pas jeter des mégots. Que vous voyez encore sur le bord de la route des gens qui jettent des mégots ou qui en vélo fument et jettent leurs mégots, c'est absolument scandaleux. J'invite également à celles et ceux qui n'utilisent pas les parkings prévus à cet effet de faire attention quand les herbes sont sèches et que vous garez votre voiture qui a un pot d'échappement brûlant. Ça peut déclencher les incendies. Il faut savoir que plus de 90% des incendies de forêt sont d'origine anthropique, c'est-à-dire c'est l'homme qui est à l'origine, je ne dis pas intentionnellement, mais qui est à l'origine des incendies. Et donc, par conséquent, si nous sommes vigilants, eh bien, nous diminuons d'autant le risque. Il faut savoir quand même que nous avons mis en œuvre ce que j'appelle le PAS, prévenir l'incendie. Et nous avons pris un certain nombre de dispositions. Je rappelle les bornes intelligentes. Ouais. Quand vous passez en forêt et qu'il y a une vigilance...
Bonjour, pour rentrer en forêt.
Voilà, pour rentrer en forêt.
Un petit QI quand même, un tout petit QI.
Un petit QI, mais quand la barrière est fermée, vous êtes obligé de l'entendre, le QI. Nous avons également un drone qui peut surveiller même la nuit. Nous avons un certain nombre de dispositifs pour prévenir l'incendie. Alerter, puisque l'idée c'est si jamais il y a un incendie et ça a été alerté, secourir. Alors là, c'est évidemment les sapeurs-pompiers qui s'occupent de tout ça. Et si jamais il y a une catastrophe, c'est évacuer. Et nous avons travaillé avec les services de l'État.
Alors, l'évacuation précoce, c'est toute la chose.
C'est un autre sujet. Mais nous avons la capacité d'évacuer par voie maritime.
Oh, bravo.
Et par voie terrestre. Et donc, si d'aventure une catastrophe arrivait, je ne vais pas dire que nous sommes prêts, parce que nous ne serons jamais prêts. Ouais. Mais nous avons beaucoup travaillé, notamment avec le préfet de région et le préfet maritime, sur une évacuation, notamment des personnes âgées, des enfants en bas âge ou des personnes à mobilité réduite par voie maritime, les autres étant évacués par voie terrestre, notamment sur les plages océanes, puisqu'on sait très bien que les plages océanes sont des secteurs safe et par rapport à un éventuel incendie.
Il y a déjà le pare-feu géant et puis l'eau. Quoi.
Donc, absolument. Et puis ici, après, il faut bien comprendre que l'océan est froid, même s'il est à 19 ou 20 en ce moment.
Il n'est pas chaud.
S'il y a un incendie, il y a de la chaleur. Et par conséquent, l'air froid stagne en bas, l'air chaud monte. Ouais. Et au bord de l'océan, vous serez relativement à l'abri si jamais il y avait un incendie de forêt.
Juste une petite question technique. Les forêts sont interdites aux véhicules à moteur. Qu'est-ce qu'il en est des vélos électriques ? Parce que ce sont théoriquement, techniquement des véhicules à moteur, et encore plus si on prend en compte le fait qu'une batterie lithium-ion, on sait que ça peut... Est-ce qu'ils sont interdits les vélos électriques en forêt ?
Alors vous avez deux types de vélos électriques, le VAE,
assistance.
Qui est vélo à assistance électrique, qui lui effectivement est autorisé sur les pistes forestières. Je rappelle que le VAE, c'est moins de 250 watts, c'est moins de 25 km/h et c'est l'obligation de pédaler pour que le moteur soit en route. Par contre, tous les autres engins qui ne sont pas des VAE, qui sont des engins motorisés, sont interdits sur les pistes cyclables et par conséquent en forêt.
Okay.
Vous avez beaucoup d'engins maintenant qui ont des moteurs de 1 kW, qui vont à 70 à l'heure et qui ne sont plus des vélos. Je rappelle qu'il normalement, je dis bien normalement, les immatriculer, les assurer et porter un casque.
Alors, c'est des fusées.
Petite scène vécue, mais ça vous l'avez certainement 100 fois par jour. Donc j'aurais une petite requête, pourquoi pas, concernant donc justement ces fameux vélos. Pour certains qui ressemblent à des motos, parce qu'ils ont des pneus qui sont aussi larges que des tracteurs, ils vont très vite. Souvent dessus, il y a un petit jeune, c'est pas méchant, mais qui a un casque sur les oreilles en train d'écouter de la musique et qui regarde son téléphone, donc il ne tient même pas le guidon, il est en sens interdit à 25 à l'heure. Donc à un moment donné, et ça sur les pistes cyclables aussi, il va y avoir un drame, monsieur le maire. Ça peut pas passer à travers tout le temps, parce qu'un machin comme ça à 80 kg lancé à 25 à l'heure avec un mec qui regarde pas, qui écoute de la musique et qui n'entend rien, ne voit rien, ça va un jour faire un drame. Donc est-ce que, déjà toute petite requête, les panneaux que vous avez mis au début du boulevard de la plage sont petits, on les voit pas, foutez un gros bazar, un truc qui dise eh oh non, descend sans s'interdit, ça se voit pas.
Alors si vous voulez, on est au Cap Ferré et notre volonté, mon équipe et moi-même, c'est de ne pas urbaniser le Cap Ferré et la presqu'île de l'Èche-Cap Ferré. Si on commence à mettre des gros panneaux, et si on commence à mettre de l'urbanisation...
Il y a des lettres partout, on peut mettre deux panneaux au début, à la fin du boulevard.
Je vous entends bien, mais on va vous demander de mettre des panneaux. Nous voulons garder le Cap Ferré nature, on veut garder la presqu'île le plus proche de l'environnement possible. Et je vous propose à ce moment-là d'aller dans d'autres villes du bassin ou ailleurs, pour retrouver des feux rouges, des parcs-mètres, des gros panneaux, etc.
On est d'accord, il va y avoir un accident.
On veut la ville sous la forêt, et on veut évidemment limiter les incivilités. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être pu vous en apercevoir. On a beaucoup de bleu sur la commune de l'Èche-Cap-Ferré qui assure votre sécurité. On a 55 renforts de gendarmes, c'est-à-dire 55 et 19, il doit y avoir 74 gendarmes. Okay. Et on a 19 policiers plus une quinzaine, c'est-à-dire qu'on a plus d'une centaine de bleus qui, tout au long de la journée et de la nuit, patrouillent pour votre sécurité. Et j'y tiens absolument parce que notre première des libertés, c'est la sécurité collective.
C'est le contrat social, monsieur le maire. Moi, si je sacrifie, entre guillemets, certaines de mes libertés individuelles, c'est par rapport à la collectivité. Mais en échange de ça, je dois recevoir la sécurité, je dois recevoir l'égalité, je dois recevoir la fraternité. Si je n'ai pas, le contrat social est rompu.
Je partage votre point de vue, c'est le triptyque républicain et j'y suis très attaché.
Justement, pour les panneaux, au cours de la discussion, me vient une idée qui est peut-être techniquement réalisable.
Ce soir, il me vient des idées.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des panneaux, tu pourrais avoir une borne informatique Parce que comme tout le monde a un téléphone, tu rentres en sens interdit dedans, pof, message sur ton téléphone, t'es en sens interdit. Ça résout le problème du panneau, et puis ça t'avertit, comme ça tu peux pas dire que tu l'as pas su.
Ou un mec avec une mitraillette.
Ou un mec avec une mitraillette, mais ça c'est plutôt dans les pays...
Tu, tu conduis avec le téléphone dans les mains dans
mais,
ces cas-là.
Mais tout le monde...
Oui,
mais
toi t'es en train de tomber dans le panneau.
Mais
hein,
non, mais... le petit panneau. Non, mais c'est ce qui... Si tu veux, comme il y a des dispositifs d'alerte sur les téléphones, alors après je sais pas dans quelle mesure juridiquement et techniquement c'est possible, mais ça résoudrait un petit peu les deux problèmes.
Surtout qu'en plus, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet, on en a trop. Mais là, depuis, on a plein d'applis avec la ville, on peut savoir plein de choses. Désormais avec son téléphone, on est connecté avec vous en fait.
Donc, plein de choses.
Donc ça, en plus, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous parler du jour que nous sommes.
L'effet de Méride.
Et voilà, nous sommes le 1er août et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent sur cette presqu'île où finalement, le disais-je, on réussit ou pas son année en 3 semaines. Aujourd'hui, nous fêtons les Alphonses et nous rendrons donc ici hommage à Alphonse Dalta, réputé pour son caractère ombrageux, mais deuxième petit chouchou de la vice-présidente du club de bowling après l'indétrônable premier magistrat de la ville, bien entendu. Nous fêtons également les Arcadies, qui ont pour goût particulier de faire des films de pieds noirs avec Patrick Bruel. Et enfin, c'est aussi le jour des Léazar, et ça, c'est formidable, puisque comme tout le monde le sait, Léazar fait bien les choses. La situation du jour et de la citation pardon, du jour est de La Rochefoucauld. Il ne faut vraiment pas avoir envie de faire d'audimat pour citer du La Rochefoucauld en plein été. On est bien d'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il disait ce monsieur? Il disait que on ne donne jamais rien aussi facilement que des conseils. Eh bien, on vient de le faire, ce qui n'est quand même pas faux. Tenez, par exemple, si vous n'êtes pas content, je vous conseille d'aller vous faire voir chez les Grecs. Vous voyez, ça marche. Niveau histoire, il y avait vraiment le choix. Mais nous pouvions sans hésiter affirmer que le plus grand événement de tous les temps après Jean-Claude, ce sont les fêtes de la Presqu'île. Et ça tombe bien, elles commencent aujourd'hui. Rayon anniversaire, nous honorons le célèbre sociologue Pierre Bourdieu, qui démontra jadis que pour 100% des chirurgiens dentistes, la vie marcherait sur des roulettes. Et enfin, nous déplorons la disparition de Calamity Jane, mais heureusement, son arrière-petite-fille siège au conseil municipal. Et avec elle, faut pas rigoler non plus. Sinon, sur un chapitre un petit peu moins rigolo, disparaissait aussi Marie Trintignant. Et on est bien content que cette merde de Canta se retrouve à nouveau dans la sauce. Bon week-end les amis.
Et Alphonse Allais peut aller se brosser.
Aussi.
L'effet de Méride.
Allez, puis on va se remettre de nos émotions avec un petit peu de musique. Mais on va garder Philippe de Gonneville avec nous, que Déborah rêve d'interroger aussi. Et elle rêve de lui expliquer que Saint-Tropez, c'est tellement mieux que le Cap Ferret.
Prenez un bon bain de soleil à l'hôtel de la plage de l'Herbe. On y passe la journée, on y croise tout le monde et puis on y est heureux.
Sideways and-
un bon bain de soleil à l'hôtel de la plage de l'Herbe. On y passe la journée, on y croise tout le monde et puis on y est heureux.
De retour dans la Virgoud mobile, ici, à côté de cette merveilleuse petite baie de Claouet, à côté de Bertic, classée Natura 2000, 3000, 5000, même si vous voulez, tellement qu'elle est belle. Nous sommes avec Philippe de Gonneville, toujours maire de Lèche-Cap-Ferré. Enfin, en dernière nouvelle, ce matin, vous êtes réveillé, vous étiez toujours maire.
Toujours, oui.
Bon, parfait. Pas eu de coup d'État.
Non. Bon. Pas cette nuit.
C'est bizarre, on ne destitue jamais les maires. On fait ça au président, mais pourquoi pas, après tout. On peut lancer l'idée.
Faites attention, j'arrive peut-être pour les prochaines élections, hein, qui sait.
Notre ami Brutal est là, et puis alors une visite sympathique. J'ai fait la connaissance de Luna, pas plus tard qu'hier soir, sur la terrasse d'un café huppé. Merci Alain, si tu nous écoutes. Et donc, bienvenue ici, et n'hésite pas à faire des petits films. Et puis Déborah, évidemment, qui tout à l'heure a passé l'obstacle d'une météo mystère avec... Grande capacité. Bravo.
C'est ça, je m'en rappelle encore.
Ah, bah tiens, je te propose de faire une petite image de Luna, l'arroseur arrosé. Elle nous filme, filme là. Et comme ça, ça alors, va montrer qu'on n'arrête pas de se mélanger les uns les autres.
Luna.
Alors, cher monsieur Philippe de Gonneville, évidemment, les prix varient un peu selon la presqu'île, mais tout est devenu cher. Et là, nous avons une spécialiste de l'immobilier de la côte sud. Donc, ça pourrait être intéressant de taper un peu, tu sais, ça intéresse les gens, les records. Donc, c'est quoi la maison la plus chère de Saint-Tropez?
Oh, alors, j'ai pas du tout révisé avant de voir sur le sujet, avant de vous rencontrer, monsieur le maire. Mais c'est vrai qu'on entend toujours parler de cette querelle, mais Cap Ferré versus Saint-Tropez.
Oui.
C'est vrai qu'on est beaucoup plus. C'est un peu plus authentique hein, chez vous, ces maisons, oui. Même très ostentatoires et malgré tout cachées entre les pins ou le. Le show-off ne se voit pas, il reste très discret. Je pense qu'à Saint-Tropez, les maisons les plus chères peuvent aller à 80 millions d'euros, je pense, dans la baie des Canoubiers.
Voilà,
c'est vraiment pour la plus chère et encore, je n'ai pas fait son estimation. Mais c'est vrai qu'à Saint-Tropez, maintenant, pour avoir une villa agréable avec piscine, on avoisine les 3-4 millions minimum. Et oui. Je crois qu'ici, on peut s'en acheter deux pour le prix d'une à Saint-Tropez, je pense. Hein.
Je ne sais pas, il en pense quoi, Philippe de Gonneville?
Ce qui est certain, c'est que c'est cher partout.
En ce moment, c'est
très compliqué.
Le record absolu pour le bassin, je crois que c'était il y a quelques semaines dans un magazine quelconque, c'est en face au Pilat, un peu plus de 20 millions quand même. Hein.
Oui, c'est ça. Nous, on est un peu au-dessous de 20 millions, je crois.
Oui, j'ai entendu 17. Pour.
Jusqu'à présent, le record était détenu par Xavier Niel, d'ailleurs, qui était venu nous rendre visite et qui est d'ailleurs toujours maintenant un citoyen d'honneur, je l'espère en tout cas, de la ville de Lèche-Cap-Ferré. Et quand des gens viennent prendre sa maison en photo, je leur dis c'est très mal d'un côté, mais de l'autre, vous payez cette maison avec votre abonnement, donc allez-y. Et quoi qu'il en soit, nous sommes d'accord pour dire que c'est pas les mêmes mentalités quand même.
Non, mais monsieur le maire, soyons honnêtes, Saint-Tropez ou Cap-Ferré, qui gagne la guerre du rosé, des lunettes de soleil et des bateaux trop gros? Alors, sur le point de vue de l'élégance, question monsieur le maire, entre Saint-Tropez et Cap-Ferré, qui a le plus de style?
Là, il faut que tu le laisses répondre.
Alors là, c'est complètement différent, parce que nous avons un style authentique,
voilà.
On a un style différent, peut-être moins clinquant et moins bling-bling qu'à Saint-Tropez.
L'absus révélateur, attention monsieur le maire.
Mais c'est vrai qu'on a une identité à mon avis plus forte qu'à Saint-Tropez.
Moi qui ne suis pas maire et qui ai pratiqué les deux, je vote pour le Cap-Ferré, parce que quand même là-bas, il y a des fautes de goût énormes qu'on ne voit pas ici.
Et surtout que j'ai bien compris que tu connaissais bien le golfe de Saint-Tropez.
C'est ça, ouais.
Alors moi, en réponse, je dirais que le Cap-Ferré a le chic discret, nous on a le chic assumé, à Saint-Tropez même les chiens portent des lunettes de soleil, il faut le savoir. Question numéro 2 sur l'apéro et côté rosé, qui sert le meilleur?
Je pense qu'on est pas mal nous ici quand même.
Surtout que les grands châteaux s'y sont mis.
Surtout que les grands châteaux bordelais s'y sont mis et c'est vrai que si, je pense qu'on domine le marché du vin quand même par notre... nos cépages bordelais, ouais. Maintenant on fait du rosé, c'est très diversifié, on a du blanc, du rouge et du rosé. Je pense que là, on a la totalité des couleurs.
Bon, je vous lâche la grappe sur cette question.
Oh, bravo.
Déjà fait.
On va juste pour les auditeurs qui se connectent seulement maintenant. Question sur les bateaux, yacht de Saint-Tropez ou Pinasse du Ferré?
Alors moi, 100 fois Pinasse de Saint-Tropez.
Mais non.
Elle est énorme.
Non, ça fait deux, c'est beaucoup trop.
C'est dans la boîte. La vinasse de Saint-Tropez.
Vinasse de Saint-Tropez, épinasse du Cap Ferret.
Il rêve de se barrer. Il veut devenir David Lisnard.
Alors, David Lisnard, c'est à Cannes. On a suivi une série à Saint-Tropez.
Je suis voileux et j'aime les bateaux traditionnels. Donc, vraiment, Saint-Tropez, c'est pas trop les bateaux favoris.
C'est vrai. À Cap Ferret, on rame. À Saint-Tropez, on klaxonne en hélico pour appeler l'annexe. C'est vrai que c'est complètement différent. Enfin, magique. Sur les plages sauvages ou plages surveillées par les paparazzi ?
À plage sauvage, sans hésitation, et surtout quand il y a des vagues, parce que je suis un surfeur passionné depuis 50 ans.
Il y a des plages naturistes pas loin de chez vous.
Ah, c'est intéressant.
Il y en avait aussi, regardez les gendarmes à Saint-Tropez, il y en avait aussi à Saint-Tropez.
Oui, on leur faisait la chasse partout.
On leur faisait la chasse.
Alors que nous, on les laissait tranquilles, mais c'est plus permis maintenant.
Oh, je crois que si vous êtes un petit peu à l'écart...
Pour reprendre un slogan, pas un slogan, mais une phrase très très classique ici, les 25 km de sable permettent ce que l'on veut. Parce que c'est ça qui est bien, moi, je trouve ici, c'est que justement, même le 15 août, si tu veux être peinard avec personne à 100 mètres à droite ou à gauche, tu t'avances un peu et tu prends un petit chemin en forêt et t'es tranquille.
Absolument, c'est ça qui est
génial. C'est bon à savoir, je vous remercie. Ben ouais.
J'ai fait, j'ai testé.
Bon, on mettra une puce sur ton téléphone quand même. Alors, continue peut-être ta comparaison.
Non, mais écoutez, en tout cas, monsieur le maire, moi je suis toute nouvelle, comme vous l'avez bien compris, sur le Cap Ferret. Et je dois reconnaître que c'est un vrai plaisir, un vrai enchantement d'être sur votre territoire extraordinaire. Je reviendrai, j'appelle ça les vraies vacances. C'est ce qui va nous manquer un petit peu du côté tropézien, où maintenant le côté show-off, c'est vraiment trop mêlé aujourd'hui. Mais on se sent vraiment bien chez vous.
Alors c'est notre slogan, les vraies vacances. Ben alors ouais, je vais vous faire une petite anecdote, parce qu'il y a trois ans, j'ai été interpellé par Cathy Guetta.
Ah oui.
Qui m'a téléphoné en disant, oh, monsieur le maire, quand même, c'est très mou chez vous, il n'y a pas d'ambiance, etc. Je lui ai dit, écoutez madame, je crois que vous êtes trompée d'adresse. Ici c'est ni Saint-Tropez, ni Ibiza, ni Saint-Barth.
Bien sûr.
Ici c'est dans la discrétion. Ouais. On se reçoit chez les uns, chez les autres. Le matin on va surfer, à midi on prend des huîtres dans les dégustations. Le soir on prend un petit rosé, toujours avec nos huîtres.
Bien sûr.
Et on aime ce côté caché sous les pins entre océan et bassin. C'est un peu notre particularité.
Bien sûr, et c'est la particularité que j'ai moi-même affectionnée le temps de ce séjour, où malheureusement je vais bientôt vous quitter, mais j'espère vraiment grandement vous rejoindre l'année prochaine.
Elle a promis qu'elle revenait.
Ah bah oui, mais on compte sûrement pour revenir l'année prochaine.
Je suis adepte du Cap Ferret, je dois le reconnaître.
Mais peut-être que vous avez déménagé, venir vous installer.
Alors
ici.
Écoutez, je viens déjà de le faire assez nombreuses fois, mais pourquoi pas, sait-on jamais, si je tombe sur un beau bordelais, quelqu'un d'ici, sait-on jamais, hein, vous savez, l'amour peut faire de grandes choses.
Oui, moi, tu crois que
j'ai déjà plein de copains maintenant.
Moi, tu crois que je suis arrivé comment ici ?
Voilà.
Je prends 20%.
Ah, bah écoutez.
Sur quoi ? Sur quoi tu vas prendre 20%?
Je monnaie personne hein, en la matière.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que celui qui va découvrir l'amour grâce à toi et donc grâce à nous pourra m'offrir une ville là, c'est le souhait.
Ah, bah écoutez, voilà. Bon entendeur, salut. Hein.
Exactement. Alors oui, non, c'est vrai que ça pouvait être ambigu. Oui. Je m'en excuse tout de suite.
Je vais faire du stop.
En admettant pour la dernière ligne droite, mais une énorme vue de l'esprit, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en introduction. Imaginons que dans un délire nocturne, j'imagine que vous représentiez à la mairie l'année prochaine et que vous n'ayez pas environ 97% d'intention favorable. Est-ce que vous mettriez en avant comme grande satisfaction de ce mandat et quelques? Et quel manque également mettriez-vous en avant et donc projetteriez-vous de combler pour un éventuel hypothétique futur mandat ?
Alors si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on a réalisé. On a réalisé plein de choses.
Allez-y.
On a réalisé une école de danse, une école de musique, des voies vertes. Ouais. On a réalisé une maison des jeunes. On a réalisé la réhabilitation de l'horizon. Et il me semble que c'est un grand succès. On a fait en sorte que le tissu associatif se développe et de ne pas laisser sur le côté ceux qui sont au bord du chemin. Et ça, c'est extrêmement important. Et le tout en désendettant la commune. C'est-à-dire que vous verrez à la fin du mandat, on avait un peu moins de 13 millions de dettes. Ce qui est très peu, hein. En 2020.
J'en ai le double.
Et nous aurons un peu moins de 11 millions de dettes. C'est-à-dire qu'on aura désendetté la commune de 20%. risqué. Hein. Et si on parle en argent constant, c'est 2 millions. Et si on en parle, on intègre l'inflation, c'est à peu près 30% de désendettement. Donc on a fait plein de trucs.
Okay.
Et on a bien géré puisqu'on a désendetté la commune. Malheureusement ou heureusement, il reste plein d'autres choses à faire.
Alors voilà, où est-ce qu'on est encore faible ?
Alors, où est-ce qu'on est encore faible ? Un, c'est sur l'évolution du changement climatique et les impacts sur la population.
Ok, alors à ce moment-là, vite fait, c'est quoi PPRL ?
Plan de prévention des risques littoraux.
Et ça dit quoi en résumé ?
En résumé, côté bassin, ça dit 60 mètres de retrait. Nous
ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord.
Nous n'en pas d'accord et on propose une étude complémentaire pour qu'on puisse s'opposer à l'État pour le retrait de 60 mètres.
Pour ces jeunes femmes ? Parler exactement de ce que veulent dire ces 60 mètres. Non constructibilité.
Ça veut dire que si vous habitez proche du rivage dans un endroit de 60 mètres, vous ne pourrez plus construire.
Voilà.
Voilà. Et plus faire d'évolution dans votre maison. Ce qui est quand même très préoccupant pour nous, notamment pour les villages ostréicoles.
Voilà.
Parce que les villages ostréicoles, c'est un lieu à la fois de travail et d'habitation. Et c'est un lieu où les professionnels et des non-professionnels vivent. Et il y a à peu près 800 personnes qui vivent dans ces villages.
Attends, le domaine maritime est inclus dans le PPRL ?
Parce que les
ostréiculteurs, ils sont sur le domaine maritime.
Oui, mais si on considère que le trait de côte va reculer de 60 mètres, bien évidemment, l'ensemble des villages est inclus dans le recul du trait de côte. Mmh. Et là, on veut se battre pour que celles et ceux qui habitent dans ces villages, il y a une mixité sociale très forte aussi dans ces villages.
Hein, on le disait tout à l'heure, mixité historique. Quoi,
mixité
aussi.
Historique, c'est la raison pour laquelle on va se battre pour eux. Et puis on va, également avancer vers la loi climat résilience qui nous permettra, si on arrive à démontrer à l'État la pérennité des ouvrages de protection, c'est-à-dire les pérer, eh bien, maintenir le plus possible les droits d'habiter, de vivre et de construire, notamment dans nos villages ostréicoles. Quand une cabane est sous l'eau, on demande à ce qu'elle soit reconstruite 50-80 cm plus haut. C'est ça la résilience vis-à-vis du changement climatique.
Okay.
Et là, il y a un véritable enjeu. Bon. Il y a plein d'autres enjeux, mais on en parlera plus tard.
Ouais. Après, voilà, c'est un peu l'été, on ne va pas rentrer dans tous les dossiers techniques. Alors justement, on est dans la dernière ligne droite, on va bientôt se quitter, parce qu'il faut que M. le maire aille prendre sa cuillère d'huile de foie de morue, parce que ce soir, il va se taper, vous rappelez, la sangria de Jeannot, qui est en train de se tromper sur le Saint-Zano. Donc évidemment, ce soir, quand il va rentrer, Philippe de Gonneville, il va faire « Oup !» Quoi qu'il en soit, il n'aura pas le temps de lire, peut-être, parce que sa demi-heure de lecture avant de faire dodo, il la lui faut.
Il me la faut tous les soirs, mais même ce soir, il y aura une demi-heure de lecture parce qu'il faut que j'avance sur le bouquin d'Étienne Klein qui est passionnant.
Exactement. Donc voilà, alors on va peut-être maintenant bientôt se quitter. Je vais remercier infiniment donc Déborah pour sa présence solaire et vraiment sympa. C'était au débeauté comme ça, donc c'était bien cool.
C'était un honneur d'être parmi vous.
Bon, écoute,
merci
un honneur,
d'avoir accueilli.
Vraiment pour nous. Et puis, bon, on va remercier Aurélie qui, évidemment, a œuvré pour que cette réunion puisse se faire. Luna qui est venue nous faire un petit bonjour. Bah, bonjour, merci, c'est sympa. Puis donc, Philippe de Gonneville, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la fin des vacances ?
Eh bien, une belle fin de saison. Éviter au maximum les accidents. Et j'appelle celles et ceux qui nous rendent visite à la prudence. Éviter les incivilités. Elles sont trop nombreuses.
Mmh.
Hein, alors, ce n'est pas gravissime, mais ça gêne la bonne ambiance et ça crée des tensions dans le lien social. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée.
Non.
Et puis, que chacun puisse vivre ses vacances le mieux possible, s'éclater pour ceux qui s'éclatent, bosser pour ceux qui bossent. Et le tout en respectant notre identité, nos valeurs et notre environnement.
Bon, on lui met 17. Peut-être même 18.
Je mettrai 18.
Si on est en forme. Ça,
vous êtes sympa alors.
On est très sympa.
Je crois qu'elle a un truc à vous demander.
Très bien.
Brutal, merci infiniment.
Mais non, mais c'est moi qui te remercie parce que tu tiens ton micro comme Karianne tenait sa baguette.
Ouais, bien sûr. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc c'était une émission vraiment cool. Venez toutes et tous, évidemment, fête de la presqu'île à partir de ce soir. Enfin, ça a commencé même hier soir avec la fête foraine. Donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Après, il y a plein d'autres trucs à faire, on l'a bien compris. Et s'il ne fait pas beau, bah, on l'a dit, hein, vous avez des solutions alternatives, la forêt, les expos. Et pourquoi pas découvrir autrement. Allez écouter les podcasts.
Et le phare à visiter.
La nuit.
C'est génial. Même le soir.
Bah ouais. Et alors, par contre, allez-y vite parce que pour
et
le phare, c'est 15
personnes.
Et vous montez
une petite coupette de champagne, je peux vous dire que les amoureux, c'est extraordinaire.
Alors moi, par contre, tu me fais monter le phare à 258 marches et la coupette de champagne, je peux te dire qu'en haut, il est vide et je ne l'ai pas bu. Hein. Ça, c'est certain. Bon, voilà, vous l'avez compris. Une bonne compagnie qui ne se quitte. Donc, on va remercier tout le monde. On va vous dire de passer un excellent week-end. On va se retrouver, nous, bien entendu, à partir de lundi, en direct de cette Very Good Mobile. Nous serons ailleurs parce que c'est le principe d'un studio qui bouge. Eh ben, on était ravis aussi d'avoir un petit paysage comme ça, aussi beau que cette place Bertic ici à Claouet. On fait un gros bisou à Clémence qui nous écoute là-bas depuis Sainte-Maxime et qu'on retrouvera lundi pour sa fameuse rubrique Clémence à la plage. Voilà. Magnifique. Où elle nous parlera un petit peu de ce dont elle a envie. Merci à toutes et à tous. On se retrouve
Merci
très vite
beaucoup.
Dans la Very Good Mobile, le podcast dans quelques minutes.
Merci à vous.
Voilà, bain de soleil sur Very Good Cap Ferré, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'hôtel de la plage vous attend jusqu'à minuit. Vous avez encore largement le temps d'aller déjeuner ou d'aller passer la journée à la plage de l'herbe et vous rafraîchir au bar de l'hôtel. Les amis, les locaux, en vacances ou au travail, tout le monde se retrouve à l'hôtel de la plage depuis plus d'un siècle et façonne l'esprit du village.